Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe sauvage. Vous nous avez fait sourire, on va vous informer, mais avec le sourire aussi. Et depuis la maison, ça fait du bien en tout cas de vous écouter et de vous retrouver un peu plus encore en ce moment. À demain, très belle soirée Mathieu.
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Votre grand journal du soir réalisé une fois encore à distance, à domicile pour tout vous dire. Hein. Tous ceux que vous entendez sont en télétravail pour vous informer au mieux, toujours avec passion et conviction, bien sûr. À la une de l'actualité ce jeudi, Emmanuel Macron qui exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité. Dans le respect, bien sûr, des règles de sécurité. On en parle dans un instant dans votre journal, Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et puis bien entendu, il y aura les réactions quand même hein, qui vont avec. À 18h20, le coup de gueule du président de la Fédération des médecins de France qui trouve honteuse la pénurie de masques. Jean-Paul Hamon, lui-même testé positif au coronavirus en quarantaine chez lui, avec son petit-fils notamment. Il est mon invité dans 20 minutes. 18h30, les grandes voix, on parlera notamment de notre état d'esprit alors que débute ce confinement inédit. Eh oui, le moral des Français, on prend de vos nouvelles. Enquête BVA Europe 1 que l'on vous dévoile ce soir. Et puis à 19h30, le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, sera avec nous par téléphone. Hein, et il répondra à vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. On fera avec lui le tour des belles initiatives en région avec nos correspondants ce soir. On est tous sur le pont à Marseille, à Strasbourg, à Nice, à Bordeaux. Tous mobilisés et tous, j'espère, à 20h sur vos balcons. Hein, c'était une promesse hier. Voilà pour ce programme chargé. Toutes les équipes restent là, pleinement mobilisées, à distance, pour vous présenter et vous informer. Ce rendez-vous jusqu'à 20h.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Si on traduit ce que j'ai dit lundi soir par on arrête tout, très rapidement, vous ne pourrez plus soigner.
Restez chez vous, mais allez travailler. Emmanuel Macron exhorte les salariés des secteurs indispensables à la vie du pays de poursuivre leur activité, alors que parallèlement, on demande aux Français de respecter les consignes de confinement. Deux messages qui semblent difficilement conciliables. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont visiblement pas bien intégré ces consignes de confinement. Se dégourdir les jambes, oui. Se promener, non. En conséquence, plusieurs villes ou départements resserrent encore les mesures restrictives, comme à Marseille, où le préfet est furieux.
Il faut bien comprendre que dès lors qu'on va à la plage, qu'on commence à y faire du sport, eh bien la contamination se poursuit. Et finalement, ceux qui font l'effort de rester chez eux voient cet effort ruiné par ceux qui ne le font pas.
Et les Parisiens aussi hein, sont indisciplinés. Que compte faire la mairie de Paris? On posera la question à notre invité Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. En plus de toute l'actualité du jour, on sera, comme chaque soir, bien sûr, avec le docteur Jimmy Mohamed, avec vos questions au 3921 ou bien sur le hashtag Radio Ouverte. Et puis on vous présentera la première maison médicale à Lyon, entièrement dédiée aux malades du coronavirus. La Bourse de Paris a rebondi ce soir en clôture, plus 2,86% à 3855 points.
Et la météo d'Anissa? Bonsoir Anissa, ça va se maintenir, on aime quand il y a du soleil hein, qu'on est confiné.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors effectivement ça va se maintenir sur une grande partie du pays avec encore demain une journée printanière, mais une perturbation arrive sur le nord de la France. Vous verrez, elle n'est pas très musclée, elle n'est pas très costaud, je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Et après le ministre de l'économie hier, c'est donc Emmanuel Macron lui-même qui est monté au créneau aujourd'hui pour exhorter les entreprises et les salariés des secteurs indispensables à poursuivre leur activité. Alors que l'on commence à ressentir les premières tensions, évidemment beaucoup de salariés s'inquiètent et c'est normal pour leur santé et ne comprennent pas pourquoi la France est confinée alors qu'eux doivent continuer à travailler. Le chef de l'État estime qu'il n'y a pas d'autre solution.
Si on traduit ce que j'ai dit lundi soir, avant on arrête tout, très rapidement, vous ne pourrez plus soigner. Parce que tout le monde mange, parce qu'on a besoin d'approvisionner, parce que le jour où vous aurez tous vos déchets qui sont devant la maison, vous aurez un autre problème de santé publique, et on va se créer des problèmes en cascade. Donc il faut une continuité de la nation, et ce que personne ne sait dire aujourd'hui, pendant combien de temps il faudra aller vers cette réduction des contacts sociaux et ses pratiques. Est-ce qu'il faudra les durcir? Est-ce qu'il faudra le prolonger vraisemblablement? Est-ce qu'il faudra y revenir à d'autres moments? Sans doute.
Voilà pour les mots du président. Aujourd'hui, il faut maintenir l'activité des secteurs essentiels. Je me tourne vers vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Emmanuel, clairement, le but de cet appel d'Emmanuel Macron, c'est d'éviter un arrêt total de l'économie.
Oui, hein, Isabelle, la France est en partie à l'arrêt et l'exécutif craint la panne générale car de nombreux salariés refusent d'aller travailler. Si ça devait se renforcer, ce serait toute la chaîne logistique qui pourrait être mise en danger. En effet, il faut bien évidemment réussir à produire, il faut transporter les produits, il faut donc du monde au péage par exemple pour faire passer les camions. Puis imaginons, un camion tombe en panne, il faut bien aussi pouvoir le réparer. Ce n'est pas simple, surtout que dans certains secteurs, y compris dans les rangs patronaux, on appelle à l'arrêt, hein, c'est le cas par exemple du secteur du bâtiment, trop dangereux selon eux d'assurer la sécurité et puis les matériaux commencent en plus à manquer. C'est beaucoup moins vrai dans les secteurs dits vitaux hein, comme l'eau, l'énergie, la poste. Là ça fonctionne même si beaucoup de salariés sont aussi inquiets et estiment que les mesures de sécurité ne sont pas optimales. Organisations syndicales et patronales mettent en ce moment même la dernière main à un projet de charte de bonne conduite hein, pour rassurer les équipes. Il doit y avoir une union sacrée entre nous, dit-on notamment dans le camp patronal.
Eh bien, merci Emmanuel Dutheil. Et avec nous également Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Bonsoir Ève.
Bonsoir.
Alors on vient de l'entendre, il y a la réalité économique hein, qui impose de continuer pour certains le travail. Et puis il y a les consignes de confinement. Est-ce que c'est conciliable ?
Et oui, ça paraît effectivement contradictoire alors que le conseil scientifique sur lequel s'appuie Emmanuel Macron demande impérativement aux Français de rester chez eux, de n'avoir que 5 à 10 contacts maximum par jour. On est loin du compte pour les livreurs ou les caissières de supermarchés. Et c'est vrai aussi que dans le même temps, partout en France depuis le début de la journée, les consignes de confinement ne cessent de se durcir. Plus question de faire son jogging sur les plages ou les quais de la Garonne à Bordeaux. Un confinement qui d'ailleurs devrait se prolonger beaucoup plus longtemps que 15 jours. Tous les experts sont d'accord là-dessus. Et cette différence de traitement entre les uns et les autres, c'est le syndicat des jeunes internes qui la pointe cet après-midi. Il réclame un confinement total et absolu de l'ensemble de la population, à l'instar des mesures en Chine, écrivent-ils, c'est-à-dire un arrêt strict de toutes les entreprises non vitales et des transports en commun.
Merci beaucoup Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Et on verra ce qu'en dit le professeur Jean-Paul Hamon, qui sera notre invité sur Europe 1 à 18h20 tout à l'heure. Il est le président de la Fédération des médecins de France et lui-même testé positif au coronavirus. Et puis une dernière minute, une info Europe 1 que nous signale à l'instant Michaël Darmon. Les conseils municipaux sortants ne seront pas installés comme c'était initialement prévu ce week-end. On aura évidemment l'occasion d'y revenir très largement dans nos prochains rendez-vous d'information. Et puis l'autre grand sujet qui monte, c'est cette incapacité à faire respecter les mesures de confinement. On l'a tous constaté hein, dans nos régions et nos villes respectives, surtout avec le beau temps aujourd'hui. Les sorties exceptionnelles autorisées pour se dégourdir les jambes se transforme souvent en longues promenades, parfois en famille. Et ça, c'est totalement interdit. Emmanuel Macron, cet après-midi, dit déplorer que trop de Français continuent à prendre à la légère ces consignes. Et du coup, eh bien, la Vendée, le Morbihan, la Corse et le littoral méditerranéen ont décidé aujourd'hui de durcir les restrictions. C'est donc le cas chez vous, à Marseille, Nathalie Chevance.
Et oui, ce qui était encore possible ce matin sur les plages du Prado, lire au soleil, marcher les pieds dans l'eau, manger son sandwich assis sur le sable, tout cela s'est terminé. Plus de baignades, plus de balades non plus sur les chemins côtiers. Il y a eu trop d'abus. Des sportifs qui faisaient leur jogging pendant plus d'une heure le long de la corniche, alors que la règle désormais, c'est 2 km maximum. Vous devez donc habiter dans le secteur si vous souhaitez voir la Méditerranée. Mesure de confinement renforcée, insiste Emmanuel Barbe, préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Ce qui est important, c'est de faire comprendre à nos concitoyens qu'il faut rester chez soi. Une plage qui est ouverte, c'est une tentation à laquelle il est pratiquement impossible de résister quand il fait beau. Les motifs pour sortir de chez soi sont strictement limités et il n'y a évidemment pas celui d'être en pleine nature. Alors je peux comprendre à quel point c'est difficile, mais nous sommes en train de faire un effort collectif énorme et pour y parvenir, il faut vraiment que nous soyons dans le confinement. Il faut bien comprendre que dès lors qu'on va à la plage, qu'on s'y réunit, qu'on commence à y faire du sport, eh bien la contamination se poursuit et finalement ceux qui font l'effort de rester chez eux voient cet effort ruiné par ceux qui ne le font pas. Voilà.
Et ce que redoutaient aussi les autorités, c'est un afflux de visiteurs pour le week-end à venir. Résultat, la gendarmerie et toutes les polices, même municipales, pourront verbaliser. Les patrouilles vont se multiplier sur les plages de Méditerranée.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille et à Bordeaux. Les quais de la Garonne, pour les mêmes raisons, sont également désormais fermés. Et les Parisiens ne sont pas plus disciplinés que les autres. Nous sommes en ligne ce soir sur Europe 1 avec Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans la capitale également, vous avez décidé de prendre des mesures plus strictes.
Tout à fait. La maire et le préfet de police, après une réunion ce matin, ont décidé par communiqué de rappeler les règles de respect du confinement et les formes de liberté, compris certains Parisiens, par rapport à ces règles. C'est d'abord très dangereux sur le plan sanitaire, pour eux-mêmes, pour les autres, pour leurs proches, pour leurs enfants, parce que c'est vraiment dans la promiscuité, dans la proximité des contacts, que le risque d'épidémie est le plus grave, et donc il doit être combattu.
Et le fait concrètement, vous allez fermer des espaces qui aujourd'hui sont encore ouverts ?
Alors, il y a certains espaces qui ont déjà été fermés, et donc il nous arrive de devoir faire la police quand même parce que des gens franchissent les grilles, etc.
Les parcs et les jardins.
Ce sont les parcs et les jardins, mais on ne va pas fermer l'espace public par définition. Et donc, il y a de grandes zones ouvertes dans Paris dans lesquelles il n'est pas possible de mettre des barrières physiques. Et donc là, ce sont les services de sécurité de proximité de la ville de Paris et la police nationale qui verbaliseront de plus en plus les récalcitrants et ceux qui contreviennent au bon sens, vraiment au bon sens. C'est pas attentatoire aux libertés individuelles de se protéger soi-même et de protéger les autres. C'est l'inverse.
Il faut vraiment respecter
ces règles.
Oui, pardonnez-moi, il y a une question importante, Emmanuel Grégoire, la question des marchés alimentaires qui revient beaucoup. Hein, nos auditeurs nous en parlent. Ils sont encore ouverts, ces marchés, parce qu'on y achète à manger, évidemment, mais ce sont des lieux de promiscuité indéniables. Comment comptez-vous procéder ?
Alors, tout d'abord, on a revu complètement l'organisation de façon à desserrer le nombre de vendeurs, l'interdiction des vendeurs non alimentaires et le marquage au sol et le respect d'un certain nombre de bonnes pratiques en termes de distance entre les acheteurs. Et la maire et le préfet de police ont là aussi été très clairs. Soit nous observons une amélioration extrêmement rapide, c'est-à-dire d'ici demain après-midi, soit sinon il n'y aura pas d'autre choix que de les fermer.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur Europe 1, premier adjoint à la mairie de Paris. Il est là, lui aussi, comme tous les soirs, pour répondre à vos questions nombreuses. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Isabelle.
Alors nos auditeurs vous interrogent tous les jours sur le hashtag Radio Ouverte, sur Twitter ou bien sur le 3921. Et on a une question d'Eric ce soir qui est en lien justement avec ce qui vient d'être dit. Les marchés alimentaires restent ouverts, en tout cas pour l'instant. Alors j'ai envie d'acheter des produits frais, mais ça m'inquiète un peu. Est-ce que je peux quand même y aller ?
Alors on déconseille effectivement de toute façon toute sortie non nécessaire. Donc si vous pouvez pour l'instant temporiser et y aller le moins possible, c'est une chose. N'oubliez pas que les aliments ne sont pas vecteurs de la maladie. Si vous avalez un aliment, vous ne devriez pas tomber malade. Il n'y a pas de contamination digestive. En revanche, sur les marchés, on a tous ce réflexe où on va toucher les fruits et les légumes. Et si quelqu'un, en cette période d'épidémie, était malade, touchait un fruit que vous allez toucher ensuite à votre tour et que vous allez porter à la bouche, notamment avec votre main, vous risquez de tomber malade. Donc les fruits et les légumes, on les épluche, on les lave, on n'hésite pas à les cuire. Le virus ne survit pas à la température, donc prudence. N'oubliez pas surtout que les marchés sont des lieux de vie où il y a beaucoup de monde. Donc le plus possible, si vous pouvez, c'est de ne pas y aller, de temporiser autant que possible.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. On vous retrouve notamment tout à l'heure à 19h30 et bien sûr dans la matinale de Mathieu Béliard et évidemment aux côtés de Mélanie Gomez dans son rendez-vous tous les jours à 15h. Depuis toujours, mais encore plus particulièrement depuis le confinement et cette crise qui nous rapproche, Europe 1 essaye au maximum d'être à vos côtés, au plus près de vos préoccupations. Nous avons décidé, en partenariat avec BVA et Orange, de mener une enquête quotidienne sur le moral des Français. Comment allez-vous ? Comment vivez-vous cette épreuve collective à titre individuel? Premier résultat sans surprise, le moral n'est pas au beau fixe. Plus d'une personne sur deux, 51%, donne une note comprise entre 0 et 6 sur 10 pour traduire son état d'esprit du jour. La note moyenne est de 6,1. Europe 1, toujours à l'affût des initiatives qui font avancer les choses, surtout en ce moment. À Lyon, une maison médicale d'un nouveau genre vient de voir le jour. Elle a pour mission spécifique d'accueillir les patients qui souffrent du coronavirus mais qui n'ont pas besoin d'être accueillis dans les hôpitaux. Bonsoir Jean-Luc Beaujean.
Bonsoir Isabelle. Oui, effectivement, la première a ouvert ses portes ce matin à 8h, mais en fait, vous ne pouvez pas aller de vous-même directement dans cette maison médicale. Si par exemple vous avez certains symptômes, vous devez d'abord appeler le 15 et c'est le SAMU qui vous y enverra après questionnaire s'il suspecte un cas de coronavirus, si les symptômes ressemblent. Ensuite, vous prenez rendez-vous dans cette maison médicale, c'est absolument obligatoire, explique le docteur Pascal Duro, médecin qui a piloté le projet.
Donc on fonctionne en rendez-vous, de façon à ce que dans la salle d'attente, il n'y ait pas plus d'une personne. On ne veut pas que les gens s'intercontaminent. On fait extrêmement attention, les gens sont en salle d'attente, ils portent un masque dès l'arrivée, la secrétaire est protégée, le médecin est protégé. On met en place des outils, on ne veut pas faire prendre de risques ni aux patients qui viennent, ni aux soignants qui sont dans ce dispositif.
Alors le but, c'est que ça retire des cabinets médicaux classiques des cas potentiels de coronavirus. Alors les médecins qui officient dans cette maison médicale dédiée sont des médecins remplaçants, donc des médecins qui n'étaient pas employés jusque-là et qui veulent participer à l'effort collectif. Et une deuxième maison de ce type devrait ouvrir à Lyon lundi prochain.
Merci beaucoup Jean-Luc Bougereau, en direct, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Notez qu'Emmanuel Macron s'est rendu cet après-midi à l'Institut Pasteur à Paris pour adresser un message de soutien aux chercheurs, dont le rôle est capital évidemment en ce moment aussi. Il va leur allouer 5 milliards d'euros supplémentaires pour la recherche sur 10 ans. Et puis quelques infos encore en bref. Alors que les parloirs sont désormais interdits dans les prisons, chaque détenu français va recevoir 40 euros de crédit téléphonique par mois pour garder le contact avec ses proches. C'est une mesure destinée à éviter les tensions qui ont commencé à apparaître dans les prisons. Le gouvernement réquisitionne plusieurs centaines de chambres d'hôtel pour accueillir les sans-abri. Plus de 170 doivent être proposés à Paris d'ici la fin de la semaine et 150 autres pour les SDF déjà contaminés.
Et merci beaucoup Isabelle Millet. On va se retrouver évidemment à 18h30. Vous serez au rendez-vous pour de nouvelles infos. Anissa, on va regarder dans une seconde, là, ça y est,
oui,
la couleur du ciel. Allez.
Effectivement.
Alors, on s'encourage.
Demain, nous avons une perturbation qui va arriver. Alors, je vous rassure, Nathalie, je vous rassure tous, en fait, c'est une perturbation très peu active qui nous vient des îles Britanniques et qui va toucher le nord et le nord-ouest de la France, avec demain sur la Bretagne, la Normandie, les Hautes France, des petites pluies éparses qui vont s'abattre sous forme d'averses. À la frontière italienne aussi, nous aurons quelques gouttes au programme de la matinée de demain, avec une limite pluie-neige à 1700 mètres. Et puis sur le Grand Est, la région parisienne et le Sud-Ouest, la journée va commencer sous les brumes et les brouillards, un peu comme hier, un peu comme aujourd'hui, avec d'ailleurs sur le golfe du Lion des entrées maritimes demain matin. Dans l'après-midi, le soleil va dominer sur toute la moitié sud de la France, avec sur la façade est un temps beaucoup plus instable de l'Alsace aux Alpes. Le vent d'Otan souffle toujours demain à 70 km/h. Les températures, elles sont assez stationnaires. On aura 5 à 8 degrés en moyenne demain matin, 8 à 10 en Bretagne et sur la façade atlantique. Et puis au meilleur de la journée, ça va baisser sur la moitié nord, 11 à Cherbourg, 12 à Lille, 14 à Paris. Demain, dans la 14 à Paris, on avait 19 cet après-midi, 16 à Metz, 18 à Marseille et 22 à Montluçon.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et avec votre invité dans un instant.
Et oui, la colère d'un médecin qui juge honteux ce manque de masques en France pour le personnel soignant. Vous savez, il a été testé positif au coronavirus. C'est le président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon. Il est en ligne sur Europe 1 dans 2 minutes.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec un coup de gueule ce soir, celui du président de la Fédération des médecins de France, lui-même atteint du coronavirus. Il fustige la pénurie de masques de protection. Vous recevez, Nathalie, ce soir, le docteur Jean-Paul Hamon.
Bonsoir Jean-Paul Hamon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur Europe 1. Jean-Paul Hamon, vous êtes médecin généraliste, président des médecins de France. Vous étiez avec nous en studio la semaine dernière et vous avez appris, là, il y a quelques jours, que vous étiez désormais contaminé par le coronavirus. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, à l'heure qu'il est ?
Ben, pas trop mal. J'avais eu un petit peu de fièvre dimanche et puis comme une de mes associées avait également de la fièvre, on a décidé d'aller se faire tester pour savoir si on pouvait continuer à prendre en charge nos patients. Parce que bon, 38, on est habitué à travailler avec ça d'habitude. Et lundi soir, l'infectiologue de Béclair m'a téléphoné à 22h30 quand même, pour me dire qu'il ne fallait pas que j'aille travailler demain et que j'étais positif.
Comment se sent-on quand on est un professionnel, quand on est un médecin et qu'on est infecté ?
Ben, c'est assez bizarre comme sensation parce qu'on a beau se dire et se répéter que ça guérit sans séquelles dans 98% des cas. Il y a une petite musique qui nous dit « J'espère que tu ne fais pas partie des 2% qui vont y passer ». Donc c'est, il y a toujours une petite pointe d'angoisse que je comprends quand même chez les patients, même si il y a quand même très peu de chance.
Vous avez évidemment vu des patients ces derniers jours, plus que d'habitude encore. Vous vous souvenez à peu près, vous avez une idée de la manière dont vous avez pu être contaminé?
Oui, c'était un patient diabétique que j'avais été voir en visite à domicile. C'est quelqu'un qui vient toujours au cabinet et la secrétaire m'avait alerté pour me dire qu'il avait l'air pas bien et que c'était une visite qui lui paraissait justifiée, donc j'y suis allé. Et quand je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était un peu confus et puis je me suis aperçu qu'il n'avait pas fait son insuline du matin. Et du coup, j'ai mis sa confusion sur l'hyperglycémie qu'il devait avoir. Je me suis assis à côté de lui pour l'examiner. Et là, à ce moment-là, il m'a toussé dessus. Et j'ai sorti le masque que j'avais dans ma sacoche, mais j'aurais mieux fait de l'avoir avant, parce que c'est certainement là que j'ai chopé.
Et ça, c'était il y a combien de jours, docteur Ramon?
Ça, c'était jeudi dernier. C'était le lendemain du jour où on s'est vu.
Voilà. Mais on ne s'est pas vu trop près. Encore que. évidemment, on garde le sourire. On est prudent. On connaît les gestes barrières. Vous les connaissez mieux que quiconque. Vous aviez un masque là dans votre sacoche à ce moment-là. Les masques, vous me le disiez en off, on va se le dire. Vous aviez lancé bien sûr un appel au pouvoir public. Vous aviez une réponse à ce moment-là. Et on vous avait promis que ça n'allait pas tarder. Vous les aviez au compte-gouttes au moment de cette visite.
On avait des masques chirurgicaux qui sont quand même connus pour être des passoires. Nous, on réclamait des masques, FFP2. Et on ne comprenait pas pourquoi ces masques FFP2 qui protègent réellement n'étaient pas en quantité livrés aux professionnels de santé, que ce soit les infirmières, les médecins, les dentistes, les spécialistes qui travaillent très proche du patient, comme les stomatos, les ORL, les ophtalmos, etc. Et on ne comprend pas pourquoi les professionnels de santé n'étaient pas protégés. Et en fait, j'ai eu l'explication, une première explication, à savoir qu'en 2008 jusqu'en 2012, on avait 1 milliard de masques en stock et 700 millions de masques FFP2. Et ces stocks n'ont pas été renouvelés. Xavier Bertrand avait pourtant inscrit dans le PLFSS à partir de 2008, je crois, hein, le plan de financement de la sécurité sociale qui est voté chaque année par l'Assemblée, il y avait une ligne qui devait coûter 15 millions pour le renouvellement de ces masques. Et puis en 2013, un minable comptable a voulu gratter 15 millions dans le budget de la sécurité sociale et a supprimé cette ligne. On avait quand même été confronté à une menace de grippe aviaire H5N1. On avait été menacé par la grippe H1N1 sous Roselyne Bachelot, à qui on a reproché d'en avoir trop fait question vaccin, mais question masque, elle avait fait ce qu'il fallait. Et là, la deuxième explication, c'est que les quatre fabriques de masques françaises fabriquent des masques à temps plein depuis début janvier, sauf que ces masques ne sont pas réservés à la France, elles en vendaient beaucoup à l'étranger. Et donc Agnès Buzyn peut verser une larme, mais moi je vais sortir mon mouchoir pour elle, parce que beaucoup de masques ont été vendus à l'étranger, alors que nous n'avions pas la capacité de fournir les masques pour les professionnels de santé.
Jean-Paul Hamon, deux questions encore. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a quel type de manquement, concrètement? Vous en voulez au pouvoir public d'avoir abandonné les médecins généralistes? Vous dites quoi, outre les masques?
J'en veux à cette administration qui a été incapable de gérer l'affaire. Et je pense sincèrement qu'il faudra qu'elle rende des comptes. L'administration est capable de nous fournir un document où on décrit en détail les kits de protection où il est question de masques FFP2. Ça, c'était il y a un mois. Et n'est pas fichu de laisser un stock à la disposition des professionnels de santé. C'est une faute grave et je pense sincèrement qu'il faudra certainement une commission d'enquête pour éclaircir la chose et que les gens rendent des comptes, parce que là il faudra qu'ils rendent des comptes et qu'ils se rendent compte que le système de santé en France, qu'on doit avoir un système de santé en France qui fonctionne Et comme je vois que la planche à billets est grande ouverte, qu'on est en train de vouloir sortir 300 milliards de je ne sais où, et c'est très bien, eh bien, qu'on mette 40 milliards de plus sur la table pour avoir un système de santé qui fonctionne, parce que j'espère que là, cette fois-ci, le gouvernement et toute l'administration toute puissante a réalisé qu'on a besoin d'un système de santé qui fonctionne, avec des lits de réanimation, avec une médecine libérale qui est fonctionnelle, et il serait temps qu'on mette l'argent nécessaire et qu'on arrête de mégoter.
Jean-Paul Hamon, Emmanuel Macron exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leurs activités. Leur activité, il l'a dit là, aujourd'hui même, dans le respect certes des règles de sécurité sanitaire, mais il faut aller travailler, souligne le chef de l'État. Qu'est-ce que vous dites de ça ?
Ben, je pense que les salariés doivent aller travailler dans de bonnes conditions de sécurité. Je ne sais plus qui parlait du taxi de la Marne hier, mais je trouve que plutôt que de prendre des risques dans les transports en commun, il y a des taxis qui existent, qui ne travaillent plus en ce moment parce que la France s'est vidée de ses touristes, et l'Île-de-France notamment, et je pense qu'on devrait les utiliser à temps plein pour conduire les gens sur leur lieu de travail dans des conditions de sécurité, en permettant aux chauffeurs de taxi, aux VTC, de nettoyer leurs véhicules.
Donc on peut aller travailler, c'est ce que vous dites. Vous dites, comme le président, qu'on peut aller travailler avec les gestes barrières, bien sûr.
Avec les gestes barrières et en évitant les transports en commun, et que l'État mette à disposition des salariés les moyens nécessaires pour aller travailler en toute sécurité, car dans les métros, sans passer dans les métros, sans passer dans les trains, sans passer dans les bus, c'est pas forcément une bonne idée en ce moment.
Merci beaucoup Jean-Paul Hamon. On vous souhaite un prompt rétablissement, on prendra de vos nouvelles et on vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec au programme Nathalie Lévy.
Le débat des grandes voix dans un instant. Et vous savez, on va notamment revenir sur ce tout premier baromètre BVA Europe 1 que l'on vous dévoile ce soir, sur le moral des Français. Votre moral, notre moral après quelques jours de confinement, ça donne quoi? Bon, on voit ça ensemble dans un instant. Restez avec nous, bien sûr.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Emmanuel Macron annonce 5 milliards d'euros en plus sur 10 ans pour la recherche. Le président a rendu visite cet après-midi aux chercheurs de l'Institut Pasteur, en pointe évidemment dans cette crise du coronavirus. Le président qui déplore que trop de Français continuent à prendre à la légère les consignes de confinement. Malgré les mises en garde répétées et les amendes, ils continuent à sortir de chez eux beaucoup trop nombreux et beaucoup trop longtemps. En conséquence, plusieurs départements durcissent leurs mesures. En Corse, comme en Vendée, dans le Morbihan, le Nord, l'Ille-et-Vilaine et sur tout le littoral méditerranéen, il est désormais interdit de se rendre à la plage ou bien de se promener en bord de mer. À Bordeaux, les quais de la Garonne sont désormais fermés. L'exécutif espère maintenir l'économie à flot malgré le confinement. Le chef de l'État appelle les entreprises indispensables à poursuivre leurs activités en toute sécurité, évidemment. Les conseils municipaux sortants ne seront pas installés ce week-end comme c'était prévu initialement. Édouard Philippe annonce le report des réunions prévues pour élire les maires. Les conseillers municipaux actuels vont donc devoir gérer les affaires courantes jusqu'à la décision du conseil scientifique fin mai. Et puis 80% des salariés d'Aéroports de Paris seront en chômage partiel à partir de lundi.
Merci beaucoup Isabelle, on vous retrouve avec un nouveau journal complet à 19h. Anissa, bon, ça va un petit peu se gâter, mais c'est pas grave, oui. On va faire face.
Non, vraiment, c'est vraiment très léger, Nathalie. Voilà. Demain, effectivement, c'est une nouvelle perturbation qui arrive. Elle vient des îles britanniques, donc elle est un petit peu chargée en eau, mais elle est très peu active. Donc vraiment, demain, on n'a rien à craindre à part des nuages assez épais sur le nord-nord-ouest avec quelques petites averses, effectivement, sur la Bretagne, la Normandie et le Pas-de-Calais. Demain matin, sur la frontière italienne, nous aurons là aussi quelques petites gouttes. De l'Alsace aux Alpes du Nord, des petites averses par-ci, par-là, mais vraiment rien de très inquiétant. Et puis dans le sud, sur la moitié sud du pays, c'est encore une très belle journée, très ensoleillée. Les températures en moyenne 5 à 11 degrés demain matin. Et dans l'après-midi, nous aurons 11 à 14 dans le nord et 17 à 22 degrés sur la moitié sud.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et c'est une tradition, on ne la change pas jusqu'à 19h. C'est le débat des grandes voix avec ce soir, à distance, toujours depuis chez eux et confinés, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1, et Emmanuel Duteil, chef du service économie.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Vous êtes habitué là à cette nouvelle situation, ça va, vous y arrivez? Bon, je suis ravie de vous retrouver en tout cas ce soir. On va commencer ce soir avec, si vous le voulez bien, un zoom sur ce premier sondage baromètre BVA Europe 1 qui nous a été livré ce jour par vous, Adélaïde Zulfikar-Pasic. Bonsoir, précisément. Bonsoir. Par le groupe BVA, bien sûr, vous en êtes directrice département opinion hein, de ce groupe BVA. Cette enquête qui s'est terminée là tout à l'heure à 15h, hein, donc c'est vraiment... là, tout frais. Merci d'être avec nous. On regarde de près avec vous le moral des Français. On a assez peu de doutes sur le sujet, a priori. Quels sont évidemment les chiffres les plus évidents là ce soir, le chiffre fort?
Alors, avant de vous donner le chiffre fort, Nathalie, si vous permettez, je voulais te dire un tout petit mot sur le pourquoi de cette démarche. On avait envie, avec vous, on s'est dit qu'on allait vivre une période complètement exceptionnelle et que c'est important dans cette logique d'interaction à distance de pouvoir maintenir le lien et donc de suivre jour après jour le moral des Français, notre moral à nous, voir comment les gens faisaient face à la situation, partager nos craintes, nos peurs, nos espoirs, nos galères pour travailler à distance, pour gérer nos enfants. Donc, c'est tout ça qu'on avait envie de suivre. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction, c'était vraiment ça l'enjeu de ce baromètre. Alors vous vous en doutez, effectivement, le moral n'est pas au beau fixe au troisième jour du confinement, puisque les Français interrogés sur justement leur état d'esprit du jour, donc c'est une enquête qu'on a menée hier et aujourd'hui, vous l'avez dit, jusqu'à 15h, quand on leur demande de nous donner une note tout simplement entre 0 et 10 pour nous dire comment ils se sentent, eh bien ils sont plus d'un sur deux à donner une note comprise entre 0 et 6. Donc c'est quand même un moral plutôt en berne en cette période. Alors ce moral en berne, il s'explique pour plusieurs raisons. Des doutes, évidemment. Plus de 4 Français sur 10 se déclarent inquiets en ce qui concerne la situation financière de leur foyer dans les semaines qui viennent. Et pourquoi? Parce que on a une partie non négligeable des salariés et des indépendants qui expriment très clairement une inquiétude quant à la capacité de leur entreprise à faire face à la crise.
Oui, on est effectivement à 35%. Et avant d'aller plus loin avec vous, Adélaïde, je voudrais faire réagir Emmanuel Duteil sur cette question-là, si vous le voulez bien. Comme ça, on interagit si on le peut. Emmanuel Duteil, vous entendez? Plus de 4 Français sur 10 inquiets concernant la situation financière de leur foyer. Un tiers des indépendants, des salariés également, qui sont extrêmement très inquiets. Est-ce qu'aujourd'hui, les mesures qui sont annoncées par le gouvernement sont de nature à rassurer ou est-ce qu'on n'est pas suffisamment au clair?
C'est sûrement de nature à rassurer, mais ce n'est pas suffisamment au point pour être de nature à donner confiance sur l'avenir. C'est-à-dire que vous êtes dans un foyer où vous êtes deux à être en ce moment au chômage partiel, en activité partielle. Vous n'avez entre guillemets que 84% de votre salaire net. Alors on pourrait se dire, oui, mais on prend plus les voitures pour aller au travail, ça compense, on n'a pas besoin de s'habiller, on dépense peut-être moins en ce moment. Il n'en reste pas moins. On a un sentiment d'appauvrissement, on a un sentiment de moindre pouvoir d'achat. Donc évidemment, ça fait peur. Et par ailleurs, quand votre patron, et notamment dans les petites entreprises que vous connaissez bien, avec qui vous êtes en contact, vous dit « je ne sais pas comment moi je vais pouvoir me payer à la fin du mois, je ne sais pas comment je vais faire rentrer de l'argent, je ne sais pas comment les contrats vont arriver », vous avez des centaines de milliers d'entreprises qui sont aujourd'hui dans cet état d'esprit. Donc inévitablement, ça ne peut faire que peur. Et puis, vous savez, en économie, on dit que ce qui fait toujours le plus peur, c'est l'incertitude. Ben là, si on adapte ça au comportement d'un ménage, tout le monde est dans le flou. C'est bien sympa, peut-être les deux premiers jours de confinement, on a l'impression d'être en semi-vacances, mais on se dit, oula, si ça doit durer un mois comme ça, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que mon foyer va devenir? Qu'est-ce que mon entreprise va devenir?
Et puis évidemment, les mesures, si elles sont de nature à rassurer, il y a la mise en place ensuite et les délais que cela va prendre. Donc c'est là aussi de nature à inquiéter. Adélaïde Zulfikar-Pasic, on regarde d'autres enseignements de ce sondage. Outre les salariés, les indépendants, enfin en tout cas la question, j'allais dire, économique, il y a quand même une bonne nouvelle.
Oui, alors il y a la question effectivement du quotidien. Comment est-ce que les gens se mettent, comment tout ça s'organise dans le quotidien? La bonne nouvelle, c'est effectivement le fait qu'aujourd'hui, alors qu'on voit bien qu'il y a des interrogations, il y a des psychologues qui interviennent sur les ondes pour vous dire attention, les couples, etc. Aujourd'hui, les 3/4 des Français sont confiants quant à l'ambiance entre les membres de leur foyer. Donc espérons que ça dure, mais pour l'instant, les Français sont plutôt confiants. Les difficultés, en revanche, sur le quotidien, elles sont plus effectivement dans la logistique, donc des difficultés à faire ses courses pour 63%. 80% des Français, des difficultés à travailler à distance pour ceux qui sont obligés de travailler à distance, des difficultés évidemment, ça va de soi, à maintenir une vie sociale. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui toute une série de facteurs de mise en place de cette période qui vient gréver un peu le moral des Français.
Et puis l'autre enseignement très clair, et là on se demande si finalement c'est la parole de nos dirigeants qui passe mal ou si c'est la situation à l'international qui fait peur, sur la question de l'évolution de l'épidémie et sur la question de la gestion du coronavirus, là les Français sont très inquiets, hein.
Oui, ils sont très inquiets puisqu'aujourd'hui, dans une très nette majorité, 70%, ils nous disent que le pire est encore devant nous. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un chiffre qui est partagé par toutes les catégories de population, aussi bien les plus jeunes que les seniors. Donc voilà, tout le monde, pour l'instant, se prépare au pire. Alors, ce qui va être intéressant, justement, c'est de suivre cette question dans la durée et de voir à quel moment on aura un point d'inflexion et quand est-ce qu'on va basculer dans l'optimisme de « ça y est, on a franchi un cap et maintenant... » le pire est derrière nous. Donc c'est vraiment cette question qui va être intéressante à observer dans les jours et les semaines qui viennent.
Parce qu'effectivement, on refera comme ça les prochaines semaines des points, des sondages et des enquêtes d'opinion avec vous. Adélaïde Zulfikar-Passit de BVA pour Europe 1, ce premier sondage donc depuis le confinement. Et je voudrais, merci à vous. Et je voudrais, Michaël Darmon, du coup, vous interroger sur le dernier aspect là qu'on vient d'évoquer avec Adélaïde. 70% des Français qui pensent que le pire est devant nous. Là, bien sûr, il y a les images, il y a les informations, il y a le rôle des médias, ce qu'on voit à l'international, et puis il y a le rôle de ceux qui nous dirigent, la manière dont ils communiquent, la manière dont ils nous transmettent les informations. Aujourd'hui, le message est clair, Michaël Darmon.
Oui,
le message est clair dans la bouche d'Emmanuel Macron, dans la bouche d'Edouard Philippe.
Alors, on a montré les nuances qui pouvaient exister dans la clarté des expressions. Mais en termes de perception des situations, le sondage qui vient d'être donné à l'instant sur l'inquiétude des Français en disant qu'ils se disent le pire est devant nous, eh bien ça veut dire qu'ils ont parfaitement entendu les autorités. Parce qu'il n'y a pas une autorité qui dit le contraire. Que ça soit une autorité médicale, politique ou institutionnelle, tout le monde dit qu'on est, on commence à entrer dans le cœur de l'épidémie. Et bien évidemment, de ce point de vue-là, ils ont raison et on a raison d'être inquiet, de penser que ça ne fait que commencer, comme on dit familièrement entre nous, parce que l'épidémie est arrivée en épicentre maintenant en Europe et l'information principale vis-à-vis de la situation internationale, c'est que on a compris qu'il y a un renversement vis-à-vis de la Chine. Ouais. Maintenant, les bonnes nouvelles viennent de Chine.
Exactement.
Et ici, on considère qu'on rentre dans la période que la Chine a vécue. Et je voulais juste revenir aussi sur l'autre aspect de ce sondage très intéressant qui a été donné là tout de suite, concernant effectivement la situation économique, comme le disait Emmanuel Dutheil. On peut même prolonger et peut-être aggraver, peut-être la situation, mais aujourd'hui, devant les sénateurs, Édouard Philippe a quand même eu des déclarations extrêmement fortes. Je vous le cite. Il prévoit un coup d'arrêt puissant, massif et brutal à l'économie. C'est ce qu'il a dit devant les sénateurs cet après-midi. On n'est pas dans un élément de langage qui prend des précautions, peut-être devant l'opinion ou lors d'une interview télévisée. Il a été absolument sans ambiguïté et sans équivoque. Donc, bien sûr, on rentre dans une période qui, à tout point de vue, ne peut provoquer que de l'inquiétude.
Bien sûr, on va y revenir dans le détail. On est avec Amine qui nous appelle ce soir au 3921, ou bien ça se passe aussi sur Twitter, vous pouvez nous contacter à hashtag Radio Ouverte. Bonsoir Amine.
Oui, bonsoir. Bonsoir Nathalie.
On a livré cette première enquête d'opinion, le moral des Français depuis le début du confinement, il y a 3 jours de cela. Vous, votre état d'esprit, quel est-il ?
Bah écoutez, comme je crois que je correspond un petit peu au panel, je pense que comme chacun de nous, quand on a l'habitude de travailler, de se lever le matin, d'aller travailler toute la journée, qu'à un moment donné, quand ça s'arrête d'un seul coup, il y a plusieurs manières de s'organiser. Bah, il faut remplacer le travail par autre chose. Moi, personnellement, je ne peux pas travailler en télétravail dans la mesure où j'ai un travail de contact avec la clientèle et donc le risque est grand. Pour eux, pour moi. Donc c'est pour cela qu'avec les responsables de l'entreprise, j'ai arrêté. Donc on s'occupe comme on peut. On s'occupe avec les enfants, on s'occupe avec la lecture, on s'occupe en écoutant Europe 1, on s'occupe en lisant un petit peu et en écrivant un petit peu. Et les journées passent. Ça fait que la troisième journée, mais je vous assure que c'est très long. C'est très long. Maintenant,
sur le plan, économique, allez-y.
Voilà. Maintenant, il y a deux choses. Il y a une peur sur le plan sanitaire, parce que avec tout ce qu'on entend, moi, comme je disais à votre collègue, à partir du moment où on entend le président de la République, le Premier ministre, dire que ça coûte ce que ça coûte, on est obligé, bah, ça veut dire quelque chose que ça fait très en peur. Ça veut dire que eux qui sont au courant, qui ont tous les jours des rapports d'experts, ça veut dire que ce qui nous attend, ça doit être énorme. Et puis pour rire un petit peu, quand il y a un consensus national au niveau politique et surtout qu'on Marine Le Pen approuve, moi ça me fait un peu rire quand elle approuve, qu'elle n'a jamais rien approuvé de toute façon, elle a toujours dit non à tout. Aujourd'hui, elle approuve la position du gouvernement, moi ça me fait peur. Ça veut dire que c'est très sérieux.
Merci Amine. Merci. En tout cas, on a bien compris. Et effectivement, il a raison, Amine, les grandes voix, vous l'entendez. Il y a effectivement ce consensus parce qu'il y a cette situation absolument extrême. Mais quand même, Emmanuel Dutheil, je vais vous interroger, Ève Roger, dans une seconde. Je regarde là la clôture de la Bourse de Paris à l'instant qui finit en sursaut de 2,6%, 2,68% à 3855 points exactement. Je regarde ça et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Il y a eu l'annonce de Donald Trump.
C'est assez logique. Il y a deux raisons qui expliquent ce rebond de la Bourse de Paris ce soir. Déjà, il faut n'y mettre aucun enthousiasme. C'est logique. Non. Pourquoi?
Parce que
hier, la Bourse a chuté. Non, mais hier, la Bourse, au moment même, on se parlait hier soir à la même heure, je vous disais que la Bourse de Paris était en train de perdre quasiment 6% et que Wall Street perdait 10%. Donc c'est normal d'avoir ce qu'on appelle une sorte de rebond technique après des journées aussi cataclysmiques. Et puis c'est d'autant plus normal que ça vous est peut-être, vous n'avez peut-être pas vu parce que c'est pas des annonces très grand public, mais la Banque Centrale Européenne a injecté des milliards d'euros encore cette nuit pour relancer la machine. Donc si jamais la bourse ne devait pas réagir à ça, là il faudrait vraiment capituler et aller tout de suite se cacher sous notre couette.
Bon, alors pas de quoi se réjouir du tout, on a compris. Ève Roger, vraiment pas de quoi se réjouir parce que de plus en plus, on avance vers un confinement qui risque d'être prolongé, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Mais je voudrais revenir sur le 70% des gens qui pensent que le pire est devant nous. Je suis tout à fait d'accord avec Michael Darmon. C'est la vérité. Et c'est incroyable que les gens comprennent que c'est la vérité, que les services de réanimation, l'objectif de ce confinement, vous me demandez la durée, mais déjà l'objectif, il faut bien le rappeler. L'objectif, c'est pas d'arrêter, de stopper net l'épidémie, on n'y arrivera pas. C'est de la ralentir pour que les personnes malades en réanimation arrivent les uns après les autres dans les services et pas tous en même temps. C'est ça l'objectif. Alors c'est la raison peut-être pour laquelle il peut continuer à avoir des gens qui travaillent, il peut y avoir un peu un virus qui circule, mais qui circule beaucoup plus lentement que s'il n'y avait pas de confinement du tout. Alors ça c'est une première chose. Donc quand est-ce qu'on saura si on y arrive? On ne le saura pas avant une quinzaine de jours. À ce moment-là, dans 15 jours, on va regarder le nombre justement de malades en réanimation, le nombre de décès, et on va voir s'il y a une petite inflexion de la courbe, et c'est même pas sûr, ça peut être entre 15 jours et un mois. Donc c'est vrai que c'est quasiment certain, et même Jean-François Delfraissy, le patron du conseil scientifique, le dit, on ira bien au-delà de 15 jours. Alors ça va être entre 15 jours et un mois, 6 semaines peut-être, si on regarde aussi ce qui se passe en Chine, peut-être encore plus, mais bien malin est celui qui peut dire aujourd'hui le temps réel de ce confinement. Parce qu'après, il peut y avoir des confinements partiels, des levées partielles ou au contraire sur l'ensemble du pays, on ne sait pas vraiment bien. Donc c'est vrai que c'est compliqué de s'avancer aujourd'hui. Mais enfin, je trouve que c'est quand même, c'est aussi une très bonne nouvelle, c'est 70%, et c'est aussi une très bonne nouvelle, les 75% des gens qui sont contents d'être en famille. Tout ce qu'on sait, c'est que le confinement révèle l'ambiance dans les familles. C'est-à-dire, c'est pas que ça détériore ou ça rabiboche, c'est simplement que ça devient un révélateur. Donc si l'ambiance est bonne, elle le restera. Voilà,
on va croiser les doigts le plus longtemps possible. On va se retrouver les grandes voix dans une petite seconde avec de nouveaux chiffres à l'instant. Le Royaume-Uni qui commence enfin à prendre conscience des choses, typiquement. Et puis ce chiffre quand même vraiment pas encourageant, l'Europe qui dépasse désormais la barre des 100 000 cas recensés de coronavirus, l'Europe, dans son entièreté. On se retrouve dans une seconde, les grandes voix, en direct, depuis chez vous, mais en direct.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et les grandes voix, le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir à distance, depuis chez Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Michael Darmon, éditorialiste, et Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et vous pouvez réagir, participer, ça se passe au 39-21. Et je vous rappelle que tous les bénéfices de vos appels sont reversés à l'Institut Pasteur, Nathalie.
Oui, Anissa, alors on va d'abord se poser une question tous ensemble, et surtout je vais vous la poser à vous, peut-être Emmanuel Duteil et puis Michaël Darmon ensuite. Certains ont dû bondir aujourd'hui depuis leur canapé, devant leur télé. D'autres ont dû se dire, bah allons-y. Emmanuel Macron a appelé le pays à continuer à tourner. Il a donc exhorté les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité pour ne pas que l'économie, je le cite, déjà très affectée, ne s'arrête. Alors Emmanuel Duteil, il faut continuer à sortir de chez soi pour aller travailler. Pour cela, on y va, on prend le risque.
C'est vrai que ça peut paraître totalement paradoxal. Moi, pour être honnête avec vous, j'ai eu tout à l'heure un chef d'entreprise d'une grosse entreprise qui me dit « Comment voulez-vous expliquer à nos salariés qu'ils n'ont pas le droit d'aller, ou en tout cas qu'on leur conseille de ne pas aller à l'enterrement de l'un de leurs proches, mais que moi je leur demande de venir et que j'ai même pas de masque à leur fournir puisqu'on n'arrive pas à avoir assez de masques pour protéger tout le monde ?» Donc c'est vrai qu'il y a une sorte d'incompréhension. Après, si on la regarde de façon froide et de façon objective, pourquoi le président de la République et pourquoi les pouvoirs économiques appellent entreprises et salariés à venir au travail? On ne parle pas de tout le monde, on parle de ceux qui sont dans des secteurs indispensables. Par exemple, le secteur de l'alimentation.
Mais ça n'a pas été clair, Emmanuel Duteil. Vous avez entendu ça, vous?
Non, c'est pas aussi clair que ça, mais je peux vous dire que c'est ça le message. Le message, c'est que ceux qui sont dans des secteurs indispensables, on va prendre l'exemple de l'alimentation, faut bien produire les marchandises, faut bien les transporter. Pour les transporter, c'est tout bête. Faut bien qu'il y ait des gens au niveau des autoroutes pour laisser passer les camions. Et vous savez quoi? Il faut même des gens pour pouvoir réparer ces camions si jamais ces camions devaient tomber en panne. Et au même titre, il faut, parce que là on en a plus que jamais besoin, faut bien de l'électricité en ce moment dans les maisons, faut bien de l'eau, faut bien Internet, faut bien tout ça. Donc il faut des dizaines de milliers de personnes qui acceptent d'aller travailler. Mais c'est vrai que le discours est très compliqué à faire passer. Patronat et syndicats sont en train de mettre la dernière main à une charte de bonne conduite. Le patronat tout à l'heure me disait, il faut qu'on soit en forme d'union sacrée avec les syndicats de salariés. Là, il n'est pas question de faire de la politique syndicale. Il faut vraiment qu'ensemble, on trouve un message cohérent. Et Laurent Berger sera par ailleurs demain matin sur l'antenne d'Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Mais il faut y aller. Mais je suis d'accord avec vous que le message distillé par les autorités n'est vraiment pas clair.
Et c'est là que Michaël Darmon, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. C'est souvent comme ça, c'est souvent un peu, depuis le début de cette crise et même un petit peu avant, c'est souvent un peu nébuleux la parole d'Emmanuel Macron d'un côté, peut-être un peu lyrique, plus martial Édouard Philippe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, quand on entend encore Emmanuel Macron aujourd'hui, oui, on bondit d'une certaine manière. Est-ce que le message, d'après vous, peut véritablement clairement passer ?
En tout cas, là, il est clair qu'on est effectivement face à ce qu'on appelle des injonctions contradictoires et des messages qui sont difficilement captables dans leur cohérence, comme vient de l'expliquer à l'instant Emmanuel. Je prendrai également le contre-champ. Il y a un contre-champ à cette explication. Bien évidemment, les professions indispensables, les métiers qui ne peuvent pas s'arrêter, sont sollicités. Mais la crainte, la terreur même du gouvernement, elle est la conséquence macroéconomique vis-à-vis de tout le pan arrêté de l'économie, parce que ce seront autant de salaires qui ne rentreront pas, autant d'entreprises qui ne pourront pas faire face à leurs charges, et là l'effet cascade il est absolument gigantesque, et là le cauchemar il est qu'effectivement l'économie soit totalement dans un effondrement, c'est-à-dire que les déclarations une fois de plus tout à l'heure d'Edouard Philippe devant les sénateurs, elles sont absolument sidérantes en termes de brutalité, je dirais, c'est-à-dire le mot même qu'il emploie vis-à-vis de ce qui est en train de nous attendre. Donc il y a également cette peur qui a amené également le président à dire il faut aller travailler, parce qu'il a bien entendu ceux qui disent qu'ils veulent exercer leur droit de retrait par rapport à toutes les conditions de travail actuellement. Je crois que c'est Ève Roger qui signalait dans nos échanges de la journée que Bruno Le Maire envisage peut-être
de rouvrir,
les librairies. En quoi maintenant les librairies sont-elles indispensables? Parce que tout simplement le monde de l'édition est en thrombose absolue. Peut-être qu'elle va nous l'expliquer.
Alors, Ève Roger, effectivement, le ministre de l'économie nous dit ça tout à l'heure, là c'est pareil, on tombe du canapé.
Non, mais lui, il dit que c'est pour lui une nourriture essentielle, mais c'est parce que c'est un écrivain. Et donc, il pense qu'on ne peut pas se passer de livres dans nos vies.
Non, mais attendez, écrivain ou pas écrivain, il y a une responsabilité à ce moment-là.
Absolument, mais si ça peut vous rassurer, Nathalie, le dossier est derrière nous. Parce que le syndicat des libraires a refusé, comme les autres professions ont refusé d'aller travailler parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Lui, il imaginait des librairies idéales où un seul client rentrait, prenait son livre et repartait. Et donc, n'aurait pas eu de contact avec beaucoup de clients. Mais je pense que c'était sans doute une maladresse.
D'accord. Autre chose, Ève Roger, avec vous, la stratégie de dépistage qui va peut-être changer avec l'arrivée de nouveaux tests, hein, c'est ça ? Alors, d'ailleurs, il y a de l'argent qui a été injecté hein, pour la recherche, on va y venir après.
C'est un sujet qui est en train de frémir, là, parce qu'on a vu qu'à Singapour et en Corée, ouais. là où le dépistage était massif et quasi systématique, l'épidémie a pu être jugulée assez rapidement de façon très efficace. Donc tout le monde s'est demandé, mais pourquoi nous on ne fait pas pareil ? Pourquoi nous en Europe on ne fait pas pareil ? Et la première réponse, elle est tout à fait simple, c'est qu'on n'avait pas assez de tests. Simplement, c'est comme les masques, on ne met pas de masque puisqu'on n'en a pas assez. Donc là, on n'en avait pas assez, on n'avait pas assez de la matière première qui fabrique les tests, elle arrive en quantité insuffisante puisqu'elle arrivait en particulier de Chine. Mais là, à partir de maintenant, depuis cette semaine, effectivement, alors je ne sais pas s'ils sont déjà disponibles, mais il y a déjà des tests ultra rapides qui arrivent, qui permettent de faire 100 tests en 3 heures, 1000 à 1200 en 24 heures, ce qui est beaucoup 10 fois plus rapide que les tests qui existent aujourd'hui. Donc, à partir du moment où ces tests existent, la question, elle peut se reposer. Est-ce que vraiment, on va passer au dépistage systématique ? Ouais. Et c'est Jean-François Delfrécy toujours, qui est mon mentor, puisque c'est lui le président du conseil scientifique, qui disait hier, peut-être qu'on en aura besoin de ce dépistage systématique pour la sortie du confinement, pour aider la sortie du confinement. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, dans un mois et demi ou deux mois, à ce moment-là, si les tests sont utilisables, s'il y en a suffisamment, peut-être que ça serait la bonne stratégie pour sortir du confinement.
Et désormais les labos de ville qui prêtent main forte, hein, qui rejoignent la course de vitesse pour faire le plus de tests possible, donc de cette infection au coronavirus.
Mais pour l'instant, c'est pas une stratégie officielle. Hein, pour l'instant, absolument. C'est encore en discussion. Parce que je crois qu'Edouard Philippe ce matin à l'Assemblée a dit que non, on n'en changeait pas de stratégie. Mais là, c'est aussi une question de moyens. Ouais. C'est les moyens qui déterminent la stratégie.
Exactement. Dites-moi, Mickaël Darmon, l'état d'urgence sanitaire à l'Assemblée, c'est bien ce jeudi?
Il est actuellement en discussion.
Le décret. Est-ce qu'on sait concrètement ce que ça va changer là dans notre quotidien ?
Ça va mettre en place. Il y a à la fois deux séries de tests. Il y a bien sûr les mesures donc de confinement, mais ça, on les connaît. Ouais.
Mais est-ce que ça va les durcir ? Je vous pose la question parce que personne ne sait vraiment ce que veut dire cet état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qu'on met derrière, en fait ?
État d'urgence, ça donne tout simplement la situation des pouvoirs accrus, on va dire, et à l'exécutif qui peut passer de manière rapide, prendre de manière rapide par décret. Des mesures pour à la fois faire pour renforcer et faire évoluer pour le processus de consigne de confinement sanitaire et autres consignes.
Donc ça permet également, d'accord, Mickaël Darmon, pour dire à nos auditeurs qu'il s'agit bien donc d'élargir leur pouvoir pour peut-être durcir, donc au quotidien ça veut dire peut-être des amendes plus costauds, ça veut dire parce que c'est pas toujours évident, les gens me disaient
pour l'instant il n'est pas question de dire les amendes elles vont augmenter. Déjà l'amende est passée de 35 à 100
à 135.
De 38 à 135 par l'effet de cette loi. En revanche, ce qui est évidemment ce qui était programmé depuis le départ, mais qui maintenant est encadré donc sur le plan légal, c'est un état d'urgence. Ça porte son nom. C'est une nouveauté, état d'urgence sanitaire. Mais enfin, il y a quand même le mot état d'urgence avec tout ce que cela correspond et signifie. Et puis, bien évidemment, d'officialiser la restriction des libertés. Nous sommes dans un quasi couvre-feu. Quand on se promène dans la rue et qu'on doit répondre à des policiers et exhiber un papier pour dire voilà comment je peux avancer, voilà pourquoi je suis dehors, on a vu ça dans d'autres pays, ça s'appelle un couvre-feu. Mais on est dans une démocratie, une fois de plus, il n'y a pas question de monter sur des barricades qui n'existent pas, on est dans une démocratie, tout ça c'est prévu par la Constitution, et la démocratie parlementaire joue son rôle actuellement au Sénat, c'est donc également voter, et la navette se fait, et demain cette loi sera votée. Par ailleurs, elle est l'occasion d'un seul point de petite tension politique, c'est sur la date de dépôt des listes pour le deuxième tour des élections municipales qui sont reportées par effet de ce texte. Du côté de La République En Marche, on bloque absolument le fait de vouloir donner un calendrier. Il y a un amendement au Sénat sur le 24 mars, mais du côté de La République En Marche, il y a une volonté de dire on ne donne pas de date et on restera au mois de juin d'une manière un peu vague. cela fait un petit peu de tension politicienne, je dirais, mais dans le cadre, il faut savoir que globalement, à ce stade, le Sénat soutient le gouvernement et réserve, bien évidemment, ses demandes d'explication. On a entendu tout à l'heure le docteur Hamon, ce qui se préparera après sera assez sismique.
Ouais. Ok, merci beaucoup pour cet éclairage. C'était important, je pense, pour nos auditeurs de comprendre ce qu'il y a derrière cet état d'urgence sanitaire. On m'a souvent fait remonter la demande. Donc, je me permettais d'insister. Michaël Darmon, merci à vous trois.
Vous avez raison, c'est sûr.
Oui, je pense que c'est pas toujours évident pour les Français aujourd'hui.
Tout à fait. On est là pour ça.
Voilà. Merci à tous les trois, les grandes voix, d'être comme ça.
N'oubliez pas, Hunter, d'aller applaudir sur les balcons, parce que
exactement.
J'ai entendu les soignants qui disent à quel point ça leur fait du bien, et je crois qu'ils en ont vraiment besoin en ce moment.
Exactement, et je leur ai demandé aussi là ce soir, là, sous mes fenêtres, de venir plus encore nombreux pour vous le prouver à tous. Et les grandes voix ont fait le point du coup demain, parce que vous allez faire pareil chez vous. Merci à tous les trois, merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci.
Voilà, on se retrouve évidemment dans un instant. Les grandes voix, c'est demain, même heure, même endroit. Et dans un instant, c'est le journal de 19h d'Isabelle Millet avec Emmanuel Macron qui hausse le ton. Donc.
Et jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Et oui, on vous accompagne avec de la politique à 19h10. C'est l'interview d'Aurélie Herbemont qui reçoit ce soir la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin. 19h20, demain en France et puis dans le monde. Comment vous organisez les élections des conseils municipaux demain? Exemple notamment près de Lyon. Et puis on sera également avec Didier François. Et à 19h30, ce soir encore, on vous emmène en région avec nos correspondants, avec vous, parce que vous êtes finalement là en train de lancer comme ça des initiatives, et on les salue, nous, sur Europe 1, toutes ces initiatives qui se mettent en place dans cette séquence si particulière que l'on vit. Vous pourrez poser toutes vos questions également au médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed au 3921, et puis sur le hashtag Radio Ouverte. On est à vos côtés chaque soir, on compte sur vous, on est ensemble, Europe 1 reste mobilisé, l'information qui continue là dans une seconde.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Pour moi, c'était aberrant de vouloir imposer aux communes une réunion d'installation de conseil municipal entre vendredi et dimanche. Je pense que la raison l'a emporté.
Édouard Philippe a donc annoncé ce soir le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour. Beaucoup ne se voyaient pas siéger dans le contexte actuel. Emmanuel Macron inquiet de l'attitude de certains Français qui ne respectent pas du tout les consignes de confinement et qui vont se promener sur la plage par exemple, alors que c'est interdit et très risqué, nous dira Salomé Legrand. Le ministre de l'économie au secours des salariés d'Amazon, contraint de travailler par leur direction, il estime que l'entreprise exerce des pressions inacceptables. Et puis il serait plusieurs dizaines de milliers des Français bloqués au bout du monde dans l'incapacité de rentrer au pays. La météo avec vous, Anissa.
Ah, toutes les deux.
Bah oui,
pour
c'est
la
bien
météo. Encore aussi. Ah voilà. Ouais, non, là c'est chic. Hein. Alors effectivement, demain nous aurons encore une belle journée sur l'ensemble de la France, mais attention au nord, de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, ça sera un petit peu plus couvert avec quelques gouttes. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet.
Et c'est donc l'info politique de cette soirée. Édouard Philippe annonce le report des réunions de conseils municipaux élus au premier tour. Réunion qui devait se tenir théoriquement dès demain et jusqu'à dimanche et qui devait permettre de désigner les maires et leurs adjoints. Les équipes sortantes dans environ 30 000 communes concernées voient donc leur nouveau mandat prolongé jusqu'à mi-mai au moins, c'est-à-dire jusqu'au rapport du conseil scientifique qui se décidera en fonction de la situation sanitaire à ce moment-là. Écoutez la réaction ce soir du maire de Reims, Arnaud Robinet.
Je salue la décision du Premier ministre. Il en va bien sûr de la sécurité sanitaire de l'ensemble des concitoyens, parce que réunir, en tout cas pour la ville de Reims, plus de 60 personnes dans un lieu confiné, il y a peut-être des élus, des agents qui sont porteurs du virus, d'autres qui ne le sont pas. Et donc pour moi, c'était aberrant de vouloir imposer aux communes une réunion d'installation de conseil municipal entre vendredi et dimanche. Je pense que la raison l'a emporté. Si j'ai bien compris, le conseil scientifique a donné un avis défavorable au Premier ministre. Il y a eu sûrement des échanges avec un certain nombre de parlementaires. Et en tout cas, je suis très heureux, en tout cas et satisfait par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, que l'appel que j'avais lancé avec d'autres maires dès hier soir ait été entendu.
Le maire de Reims, Arnaud Robinet, au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois. Emmanuel Macron, en première ligne dans cette crise du coronavirus. Ce matin, le président exhortait les entreprises et les salariés des secteurs indispensables à poursuivre leur activité. Cet après-midi, il est allé rendre visite aux chercheurs de l'Institut Pasteur, en pointe évidemment dans la lutte contre le coronavirus. Il annonce le déblocage de 5 milliards d'euros pour la recherche sur 10 ans. Bonsoir Jean-Rémy Baudot.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Du service politique d'Europe 1 en direct avec nous ce soir, Jean-Rémy, le chef de l'État, qui par ailleurs déplore l'attitude de certains Français qui ne respectent pas les consignes de confinement.
Oui Isabelle, Emmanuel Macron, il a vu comme tout le monde les images des Français en balade, ceux qui font du jogging le long des fleuves, des images qui ont choqué au moment où le pays doit se confiner pour lutter contre l'épidémie. Il faut dire que le message peut troubler certains, rester à la maison, oui, mais continuer aussi à aller travailler quand c'est nécessaire. Le chef de l'État conscient de l'effort demandé aux Français, mais qui ne va pas par quatre chemins. Cet après-midi, au troisième jour du confinement, Emmanuel Macron a considéré que certains Français prennent le coronavirus trop à la légère.
Moi, quand je vois les gens qui continuent à aller au parc, à se mettre ensemble, à aller à la plage dans certains endroits ou à se ruer dans les marchés ouverts, ils n'ont pas compris le message. Donc, de dire au moins un mètre de distance, on ne se serre pas la main, on se lève avec du gel, que tout le monde fasse ça, qu'on ne sorte qu'en stricte nécessité pour aller faire ses courses une fois par jour pour prendre l'air, etc., pour qu'on ne se regroupe pas, ça c'est fondamental, c'est le plus important. Ce que j'observe, c'est que ça n'est pas aujourd'hui parfaitement respecté et qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui prennent encore ça à la légère.
Voilà, cette légèreté, c'est ce qui fait dire au président Macron qu'il faudrait vraisemblablement, je cite, prolonger la période de distanciation sociale. Emmanuel Macron qui multiplie les entretiens, les déplacements. Selon nos informations, ce soir, il s'entretiendra au téléphone avec les responsables des hôpitaux de Colmar, Mulhouse et Strasbourg. Demain, visite au centre de crise. Un conseil de défense est aussi en préparation. Emmanuel Macron, il veut être auprès de ceux qui sont en difficulté, un soutien moral, symbolique et politique, explique l'un de ses proches.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1 en direct. Et justement, parce que certains ne respectent pas les consignes, la Vendée, le Morbihan, la Corse, le Nord, l'Ille-et-Vilaine et le littoral méditerranéen ont décidé aujourd'hui de durcir les restrictions. Les plages et les chemins côtiers sont désormais interdits d'accès. Même chose pour les quais de la Garonne à Bordeaux. Salomé Legrand, ce qu'il faut dire et redire ce soir et que certains Français visiblement n'ont pas encore intégré, c'est qu'on n'a pas le droit de se déplacer pour des loisirs.
Et non, parce qu'il faut limiter le nombre de gens que l'on croise tous les jours. Idéalement 2, maximum 5, même avec cette fameuse distance d'un mètre, hein, qui n'est pas totalement une protection. Du coup, même les grandes plages landaises où l'on se croit tout seul, c'est non, explique Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine.
Il ne faut pas penser qu'on est tout seul. En fait, on n'est jamais tout seul. Et quand vous allez à la plage, vous sortez de chez vous, vous allez rencontrer évidemment quelques personnes dans la rue, même à un mètre. Et puis vous allez arriver sur la plage et bien sûr, vous n'êtes pas le seul à avoir pensé à aller prendre le soleil sur la plage. Donc forcément, vous allez croiser d'autres personnes et très rapidement, et bien sans même vous en rendre compte, vous aurez croisé 10, 20, 30 personnes qui, même si elles sont à un mètre, constituent quand même un nombre de contacts beaucoup trop important dans cette période de confinement strict. Et puis à la plage, il y a du vent. Les gouttelettes peuvent être transportées par le vent et vous atteindre très rapidement. Donc non, ce n'est vraiment pas une bonne idée.
Et c'est pareil pour la course à pied. Le ministère des Sports l'a redit aujourd'hui. 1 ou 2 kilomètres autour de chez soi, pas plus. Quant au vélo, il n'est autorisé que pour les déplacements professionnels. Et attention, les autorités ont annoncé des contrôles plus stricts dès demain.
Les précisions importantes de Salomé Legrand. On vous relatait hier soir sur Europe 1 l'inquiétude des salariés d'Amazon dans le Nord qui menaçaient de faire valoir leur droit de retrait alors que leur direction les oblige à travailler. Eh bien, ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, est venu à leur secours, Lionel Gougelot, en dénonçant les pressions inacceptables du géant de la vente à distance sur ses salariés.
Eh bien oui, parce que selon les syndicats, la direction d'Amazon menace les salariés qui veulent exercer leur droit de retrait de les sanctionner pour absence injustifiée. Du coup, malgré des mesures de protection sanitaire insuffisantes dans les entrepôts géants, beaucoup vont travailler la peur au ventre, selon Jérôme Guillain, représentant du syndicat Sud Solidaire sur la plateforme Amazon près de Douai.
Ils ont la peur d'attraper le virus. Ils regardent tout le monde dans un coin pour savoir si la personne va tousser, va être malade. En fait, ils ne savent plus. Donc ils rentrent la tête en bas et puis ils y vont comme à l'abattoir.
Alors forcément, ils ont trouvé, dans les propos de Bruno Le Maire, qui parlait de pression inacceptable ce matin, un soutien presque inespéré.
Il était temps que quelqu'un qui représente l'État, enfin bouge, enfin mette la réalité en face des yeux de ses dirigeants. Voilà, peut-être même qu'à l'intérieur même de nos dirigeants, nous ici en France, ils ont peur. mais ils ne font qu'exercer que ce que demande Amazon. Donc voilà, c'est tout. Et maintenant, il faut que ça bouge. Si au plus haut, ça ne bouge pas, c'est-à-dire au niveau de l'État, il n'y a que eux qui pourront faire bouger ce géant, quoi.
Amazon qui parallèlement aurait proposé des négociations pour augmenter les salaires, une façon de monnayer la santé des salariés, disent les syndicats qui réclament donc la fermeture pure et simple du site ou à tout le moins la réduction des expéditions aux produits de première nécessité.
Merci beaucoup Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, en direct ce soir. Et alors que vous êtes nombreux à ne pas vous servir de vos tickets resto en ce moment, forcément, le SAMU social vous lance un appel, que vous soyez particulier ou bien entreprise, et si vous donniez ces chèques déjeuner aux sans-abri, un geste tout simple qui permettra aussi de sauver des vies. Et puis, touristes ou hommes d'affaires, ils sont des milliers de Français bloqués actuellement à l'étranger, qui tentent de trouver un vol avant que les frontières ne ferment définitivement. Pauline Jaco, ils sont nombreux, hein, ces Français bloqués, et ils sont très inquiets.
Oui, en Espagne, par exemple, en ce moment, il y a encore une trentaine de Français bloqués à Las Palmas, aux Canaries. C'est un groupe de voyageurs partis ensemble de la région lyonnaise, parmi lesquels Frédéric. Leur hôtel allait fermer dans quelques jours. Ils sont désormais dans une auberge de jeunesse, depuis laquelle ils cherchent un moyen de rentrer en France.
Tous autant qu'on y est, on est tous avec nos téléphones à essayer de trouver. Et puis dès qu'il y en a un qui trouve bataille, il y a ce vol qui a l'air d'être mis en place. On s'y inscrit, mais quand on voit le nombre d'annulations qu'il y a, on n'y croit vraiment pas trop. Las Palmas, Barcelone.
Et de Barcelone, il faudra encore rallier Paris, Lyon, pour enfin pouvoir rentrer chez eux. À des milliers de kilomètres de là, aux Philippines, Sandra essaye depuis une semaine de quitter l'île de Cebu. Ça fait trois fois qu'elle doit repayer un billet d'avion à cause des annulations.
On perd notre billet. Tout de suite, on a le réflexe de survie. C'est d'aller soit sur Internet et d'essayer de booker un maximum de billets d'avion qui sont extrêmement cher, ou sinon c'est d'appeler la famille en France et d'essayer de leur dire d'appeler des compagnies. J'étais avec ma famille au téléphone, ils sont restés 3 heures pour essayer d'avoir Emirates. On a réussi à avoir des nouvelles places que pour le 24.
Le 24, mardi prochain, elle fait partie des chanceuses, dit-elle, des dizaines de personnes avec qui elle est en lien sur les réseaux sociaux sont obligées de dormir devant l'aéroport de Manille en attendant de pouvoir monter dans un avion.
Merci Pauline Jaco. Et le ministre des Affaires étrangères appelle ses touristes à faire montre de patience.
Merci beaucoup Isabelle Millet. On va vous retrouver à 19h30 avec un nouveau point sur l'actualité. Évidemment parce que nous sommes avec un peu de distance, il y a parfois des accros, mais légers. Et puis je suis sûre que chez vous, ça vous fait sourire de nous entendre bugger. N'est-ce pas Anissa? Ah, évidemment, c'est imparfait, c'est pas comme en studio, mais on est là en tout cas pour vous informer avec le sourire.
Attendez, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. C'est dans ça. Notre confinement. Et exactement. Que nous sommes en train de tenir des lions en cage pendant
deux ans. Vous en avez une petite douzaine en plus. Non, je plaisante. Elle est mignonne comme tout la vôtre. Allons-y alors. Avec le soleil, on est mieux dans le confinement sur le balcon.
Oui, et effectivement.
C'est pas loin de la promesse.
Exactement, ça se passe comme ça depuis plusieurs jours. En effet, c'est vrai, un très beau temps sur la France. Ça permet d'aérer les maisons, ça fait du bien. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des terrasses et des jardins, ils en profitent. Alors sachez que demain, ça sera bis repetita sur la moitié sud de la France. En revanche, au nord, ça se gâte un petit peu avec une perturbation qui arrive des îles britanniques. Cette perturbation va toucher demain matin le nord-ouest, donc la Bretagne, les Hauts-de-France, la Normandie, avec un ciel très couvert au lever du jour. Et puis vous aurez le droit à quelques petites averses. Mais rien de très inquiétant, il n'y aura vraiment pas beaucoup d'eau. Hein. Quelques gouttes également de l'Alsace jusqu'aux Alpes du Nord. Et puis toujours dans le sud, le vent d'autant qui souffle jusqu'à 70 km/h. Au sud de la Loire, c'est encore une très belle journée demain. Les températures, elles sont stationnaires. Nous aurons 2 degrés à Manosque, 4 à Chambéry et Avignon demain matin, 6 pour Marseille, Lille et Belfort. Déjà 9 degrés en début de journée à Paris et Strasbourg, 10 à Nice. Et dans l'après-midi, 9 à 11 dans le nord sous la perturbation. Et puis c'est plus doux au sud avec 14 à 20 en moyenne et jusqu'à 22 dans le sud-ouest.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy.
Avec dans un instant l'interview politique d'Aurélie Herbemont. Bonsoir Aurélie, on est à distance mais ce soir oui, votre invité. Mais...
Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. L'Europe est désormais le continent où on compte le plus de morts du coronavirus.
Et oui, votre invité qui répond présent, c'est dans 2 minutes l'interview politique, c'est à vivre sur Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et c'est l'heure de l'interview politique, Nathalie Lévy.
Et oui, avec vous Aurélie Herbemont et votre invité ce soir, la secrétaire d'État chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin.
Bonsoir Amélie de Montchalin.
Bonsoir.
Emmanuel Macron déplore que trop de Français prennent à la légère la consigne de rester chez soi et en même temps, il exhorte les entreprises et les salariés à poursuivre leur activité. Est-ce que c'est bien cohérent et compréhensible pour les Français ce discours un peu ambivalent ?
Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on voit tous qu'on est vraiment en guerre. Aujourd'hui, l'Europe est le continent le plus touché. C'est une guerre sanitaire, c'est une guerre économique. Parce que ce virus, il peut nous anéantir non seulement sanitairement, il peut faire beaucoup de morts, et c'est pour ça qu'on doit rester chez soi, mais il peut aussi nous anéantir économiquement. Et il faut qu'on puisse sortir debout sanitairement, debout moralement, debout démocratiquement et debout économiquement. Et donc pour ça, partout en Europe, il y a une mobilisation générale, bien sûr pour que, d'abord on stoppe le virus, on le freine, et ça c'est toutes les mesures de confinement. Il y a ensuite des mesures très fortes pour les hôpitaux, comment on soutient tous les personnels de santé, et puis ensuite il y a une bataille économique, et il faut qu'on puisse continuer à, pouvoir avoir une économie qui fonctionne, parce que sinon c'est du chômage, c'est des destructions d'emplois, et ça sera au fond une victoire du virus, non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan économique.
Donc c'est moins risqué d'aller travailler que d'aller au parc ou prendre l'air.
Mais ce qu'on dit, c'est que évidemment que ce virus chamboule, perturbe toute notre vie quotidienne, notre vie familiale et évidemment la vie professionnelle. Ce qu'on dit, c'est que pour les gens qui ne peuvent pas télétravailler, il faut qu'on s'organise pour qu'ils prennent le moins de risques possible, mais que néanmoins, il y a un certain nombre de services essentiels à notre vie quotidienne. Je pense bien sûr à l'énergie, à l'électricité, aux déchets, à l'alimentation. Je vois tous les efforts aussi que font, je vois les caissiers, les logisticiens, tous ceux qui permettent que la vie quotidienne continue, parce que nous avons besoin, même si cette période de confinement dure plusieurs semaines, nous avons besoin non seulement qu'elle puisse se poursuivre le mieux possible, et nous savons que c'est difficile, mais nous avons aussi besoin de ne pas laisser ce virus gagner la guerre économique.
Amélie de Montchalin, vous le disiez, l'Europe est désormais le continent le plus touché. L'Italie dépasse même la Chine en nombre de morts. Les frontières extérieures de l'Union européenne sont maintenant fermées pour 30 jours. N'est-ce pas trop tard ?
Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous sommes le foyer épidémique nous-mêmes. Et donc la raison pour laquelle nous fermons nos frontières, c'est d'abord éviter qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans l'espace où aujourd'hui on voit bien que la seule demande qu'on fait à tout le monde, c'est de rester chez soi. Donc c'est pas très intéressant pour que des étrangers viennent nous voir. Et par ailleurs, il faut qu'on évite aussi de contaminer plus largement d'autres zones du monde et donc qu'on applique ces restrictions. Il y a eu des restrictions de voyage déjà depuis longtemps, notamment avec la Chine. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est aussi pour préserver notre système de santé. On a déjà beaucoup, beaucoup de travail à faire ici avec les Européens qui sont sur le continent, avec ceux qui y habitent. Et donc, c'est pour ça qu'on prend ces mesures.
Alors, certains pays européens avaient verrouillé très tôt leurs frontières intérieures, mais pas tous. Aujourd'hui, les déplacements entre pays européens sont contrôlés. Est-ce que là aussi, il n'aurait pas fallu mettre tout ça en œuvre plus tôt ?
Alors, moi, la grande victoire qu'on a, c'est qu'avant-hier, on a adapté et on a adopté ensemble un cadre commun. Un cadre commun sur les frontières extérieures, vous l'avez dit. On a aussi adopté un cadre commun sur les frontières intérieures. Pour dire trois choses. D'abord, il faut absolument que les marchandises puissent circuler, parce qu'on a tous besoin des uns des autres, je pense notamment dans le domaine alimentaire. On a aussi fixé l'idée que les voyages non essentiels n'avaient aucun lieu de se poursuivre, puisque dans chacun des pays, on a les mêmes munitions dans cet effort de guerre, qui est de rester chez soi le plus possible. Donc il n'y a pas de raison que si on dit à des Français de rester chez eux, on les retrouve de l'autre côté des frontières en train de se promener en Allemagne ou en Belgique, par exemple. Et puis, troisième point, il faut qu'on laisse les travailleurs transfrontaliers pouvoir travailler s'ils ont des fonctions essentielles de l'autre côté de la frontière, parce qu'on a là aussi des choses qui sont essentielles pour, notamment, je pense, au système de santé. Ce cadre-là, il a été adopté en commun.
Aussi circuler le virus, les travailleurs transfrontaliers. Allô ?
Moi et votre invité Amélie de Montchalin dans une petite seconde. Ah oui, c'est ça, les joies du direct et à distance. La secrétaire d'État chargée des affaires européennes à qui vous posiez la question effectivement de la transmission du coronavirus pour ses travailleurs. Elle va sans doute pouvoir vous recontacter dans un instant. Et si ce n'est pas le cas...
Oui, je suis là.
Elle est là, voilà, Amélie de Montchalin. Alors on vous redonne la parole.
Excusez-moi.
Magie de la technique et aussi petite défaillance parfois. Effectivement, Amélie de Montchalin, vous reconnaissez finalement ce soir que garantir les frontières a un intérêt.
En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup de gens nous ont dit qu'il faut fermer les frontières parce que comme ça, quand on sera tous entre nous, le virus, on l'aura combattu. La clé, c'est que le sujet, c'est pas de fermer les frontières, c'est d'être cohérent. Est-ce que si on demande aux gens de rester chez eux, ça a un sens de les imaginer se promener de l'autre côté des frontières ? Fermer les frontières, si c'est pur et simple, ça crée de grandes difficultés, je pense notamment pour les marchandises, pour les biens, pour les services et des choses qui doivent continuer de circuler. Donc la clé, c'est pas fermer ou ouvrir les frontières, la clé, c'est d'être cohérent. Et que donc, si on demande aux Européens de rester chez eux, eh bien, il faut qu'on puisse appliquer ces mesures. Maintenant, je vous dis, les travailleurs transfrontaliers et les marchandises ont besoin de circuler. Et bien sûr, on prend toutes les mesures sanitaires, on protège tous ceux qui circulent, parce que le but, c'est pas qu'ils propagent la maladie, mais c'est qu'ils continuent, je pense notamment dans les hôpitaux, notamment dans les services qui font que la vie quotidienne est possible. Je pense à l'électricité, je pense à la logistique, qu'on puisse continuer à avoir, au fond, une économie qui fonctionne, parce que je vous l'ai dit, sinon cette guerre que le virus nous mène, il nous anéantira à la fois sanitairement et économiquement, et là, il faut vraiment qu'on prenne un effort collectif pour que ce ne soit pas le cas.
Amélie de Montchalin, vous parlez de cohérence. Tous les pays européens ne choisissent pas la même stratégie pour lutter contre le virus. On voit des pays comme la France, comme l'Italie, comme l'Espagne qui confinent la population et d'autres pas. On pense aux Pays-Bas notamment qui préfèrent laisser circuler le virus pour développer une immunité de la population. Le Royaume-Uni qui déconseille les rassemblements mais sans confinement. Tout ça manque un peu de coordination, non ?
Bah, écoutez, sur ce plan-là, on est très vigilants. J'ai eu, vous voyez, mon homologue des Pays-Bas, Jean-Yves Le Drian a eu son homologue britannique, j'ai eu moi-même des contacts très nombreux avec les autorités de tous ces pays. Aujourd'hui, au fond, on partage le fait que notre meilleure munition, c'est de limiter les contacts sociaux. Ça prend parfois des formes différentes dans les discours politiques. Dans les faits, je peux vous dire que partout en Europe, il y a beaucoup, beaucoup moins de contacts. Il y a parfois des périodes d'ajustement. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience, y compris de pays au départ, qui avaient des stratégies qui étaient différentes, qu'on ne peut pas s'en sortir autrement. Au Royaume-Uni, les choses bougent. Elles bougent peut-être pas exactement en même temps que nous, mais elles évoluent. Et aux Pays-Bas, là aussi, il y a une grande vigilance de notre part. Ce qui est important, c'est que dans cette guerre, on a un ennemi qui est commun, qui est le virus. On a aujourd'hui une des mesures qui sont les plus efficaces, qui sont de limiter les contacts. C'est ce que tous les pays appliquent, peut-être différemment parce que parfois le discours est différent. Parfois différemment parce que le discours est différent, mais je peux vous dire que partout en Europe, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, on encourage beaucoup nos voisins à regarder comment on peut y arriver ensemble et à rester bien coordonnés. Les mesures qui sont préconisées au niveau européen sont les mêmes. Et donc, on est vraiment dans une bataille en commun.
Amélie de Montchalin, où en est le rapatriement des dizaines de milliers de Français qui sont aujourd'hui hors d'Europe, au Sénégal, au Maroc, aux Philippines et qui veulent à tout prix rentrer en France ?
Écoutez, on y travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le centre de crise du Quai d'Orsay est sur le pont. On y travaille avec Air France. On y travaille pour que ce retour soit possible, pour que tous les Français qui étaient soit en visite pour des courts séjours, pour des voyages d'affaires ou des voyages tout court, des touristes, puissent retourner en France le plus rapidement possible. On le fait dans les plus brefs délais, et je lance ici un appel vraiment qui est double. Si vous résidez en dehors de France et que votre résidence principale est dans un autre pays, en Europe ou ailleurs, il faut vraiment rester là où vous êtes. Les voyages internationaux, sauf cas sanitaire grave, ne vont pas aider. Parce que, à nouveau, c'est de la mobilité contre laquelle il faut qu'on arrête les mouvements. En revanche, si vous êtes en court séjour, il y a vraiment une urgence à vous faire connaître. Parce que aujourd'hui, on organise des choses, on essaie de les faire dans les plus brefs délais. Si on attend une semaine, deux semaines, trois semaines, ça sera plus compliqué. Donc là aussi, les consulats, les ambassades, le centre de crise, on est tous sur le pont. On travaille avec toutes les autorités des pays où sont ces Français pour faciliter les retours, s'assurer que les vols peuvent décoller. Mais vraiment, il faut que aussi les Français nous aident à se faire connaître parce qu'on ne pourra pas permettre ces retours s'ils ne se manifestent pas.
Un tout dernier mot, Amélie de Montchalin. Vous pensez que les Français qui souhaitent rentrer pourront être rentrés d'ici combien de temps ?
Ça dépend des destinations. On travaille aujourd'hui avec les compagnies aériennes pour que les vols se passent dans les plus brefs délais. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde, donc bien évidemment ça prend plusieurs rotations. Il y a des endroits où il y a moins de monde. Là on se coordonne aussi entre Européens, parce que parfois vous avez des nationalités différentes, des petits groupes de dizaines de personnes. Là on essaie de faire les choses ensemble pour éviter de faire voler trop d'avions, vous voyez, à moitié plein. Donc il y a tout un travail logistique énorme qui est fait, une énorme coordination. Et c'est vraiment l'objectif premier, c'est que tout le monde puisse rentrer chez soi et rester chez soi, parce que c'est au fond la meilleure arme, c'est la meilleure munition qu'on a dans cette guerre sanitaire qui est la plus dure qu'on a à connaître depuis un siècle, comme l'a dit le président de la République.
Merci Amélie de Montchalin d'avoir été mon invitée ce soir.
Merci beaucoup.
Europe 1. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 20h avec dans un instant Nathalie Lévy.
Eh bien, on reste ensemble, hein, s'il vous plaît. Restez avec nous parce que on sera un peu partout en France et puis dans le monde. On va à 19h30 précisément vous rendre hommage. Eh oui, direction comme hier, les régions où les initiatives se multiplient dans ce moment si particulier, ubuesque, inédit. La France est solidaire en ce moment. On va vous le prouver avec tout plein d'exemples. On se retrouve en direct sur Europe 1.
Grand journal du soir poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et chaque soir avant 19h30, Europe 1 prend un temps d'avance pour écouter le monde changer et on s'intéresse à ce qui va se passer demain Nathalie.
Et oui, on va filer à Marseille, dans le sud-est de la France avec Nathalie Chevance. Bonsoir à vous. Et la question qui se pose en ce début de pandémie, je vais y arriver, c'est aussi quel avenir pour les sans domicile fixe Nathalie?
Eh bien, pour le moment, on ne sait pas, car la tâche est immense. Rien qu'à Marseille, chaque année, 14 000 personnes font appel à un service social d'urgence. 1 500 dorment dans des bidonvilles, dont une majorité de Roms, qui bien souvent n'ont pas accès à l'eau, pas d'hygiène, plus de ressources, confinement oblige. D'où ce cri d'alarme du milieu associatif, et notamment de Fatih Boiroua, qui est le président de la communauté Emmaüs, ici à Marseille. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, et il me disait ceci. On ne peut pas rester les bras croisés, il ne faut il ne faudrait pas que les sans-abri deviennent un vecteur de l'épidémie parce que justement les associations tournent au ralenti du fait des déplacements limités. Par exemple, la communauté Emmaüs ici est fermée, il n'y a plus de collecte. Les bénévoles n'ont plus le droit d'organiser dans la rue des distributions de repas. Mais dès la semaine prochaine, une opération petit déjeuner pourrait reprendre le matin en haut de la Canebière. C'est en cours de négociation avec les autorités. Mais c'est un casse-tête pour la mise en place, pour que les règles sanitaires soient respectées. Même chose concernant l'hygiène, il n'y a pas de bain-douche à Marseille et seulement une petite trentaine de points d'eau. Alors Emmaüs lance aussi un appel aux dons pour recevoir des savons, des kits d'hygiène, des associations enfin qui réclament à l'État 10 milliards d'euros pour l'urgence sociale et notamment la réquisition des hôtels vides dans les grandes villes pour les plus démunis.
Ah oui, Nathalie Chevance, correspondante européenne à Marseille, on voit hein, ces initiatives et on va les voir encore parce que comme avec nos correspondants, vous allez comprendre que la solidarité joue à plein un peu partout en France dans ce moment de confinement. Didier François, bonsoir à vous, demain dans le monde. Et nous continuons à scruter la pandémie, observer son évolution à l'étranger. Et aujourd'hui, l'inquiétude pour tout le Proche-Orient, c'est l'Iran. Parce que car la République islamique semble incapable de maîtriser l'épidémie, Didier. Hein.
Oui, c'est une énorme catastrophe. Les autorités iraniennes sont totalement débordées. 147 nouveaux morts en 24 heures, une augmentation record de 15%, qui fait qu'on a dépassé la barre symbolique des 1000 décès. Et on parle là de chiffres officiels, sachant que tous les spécialistes les considèrent totalement sous-évalués. Autre indice de l'extrême gravité de l'épidémie en Iran, pas moins de 15 dignitaires du régime ont contracté la maladie et 5 en sont morts. Alors, à sa décharge, le gouvernement d'Hassan Rouhani a des moyens très limités. D'abord par l'embargo international qui pèse lourd sur le système de santé, mais surtout par un blocage systématique de ses initiatives par les religieux conservateur. Dernier exemple en date, le président Rouhani voulait fermer les principaux centres de pèlerinage avant le nouvel an persan de Nowruz qui aura lieu le 20 mars. Parce qu'on sait que ce sont les pèlerins qui sont à l'origine de la diffusion du coronavirus dans le pays et même dans toute la région, au point d'ailleurs que les Arabes sunnites du Proche-Orient considèrent le Covid-19 comme un virus chiite. Eh bien, les proches du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui poursuivent leur offensive idéologique contre les réformateurs, ont imposé le maintien des pèlerinages.
Eh ben, alors avec de graves conséquences, inévitablement pour les pays voisins.
Oui, à commencer par l'Irak. Plus de 1500 km de frontière commune avec l'Iran, son premier partenaire commercial. Et puis les deux pays partagent la même religion, l'islam chiite, et donc les mêmes lieux de pèlerinage. La grosse différence, c'est qu'en Irak, le gouvernement a interdit les rassemblements religieux, elle a déjà fait Karbala, avec l'accord de la plus haute autorité cléricale, l'ayatollah Sistani, qui a édicté une fatwa faisant de la lutte contre le coronavirus une obligation collective. Côté sunnite, c'est l'Arabie Saoudite qui a pris les mesures les plus sévères, allant jusqu'à suspendre les pèlerinages à la Mecque.
À suivre cette situation là aussi extrême. Merci beaucoup Didier François. À demain évidemment.
Europe 1. À suivre Nathalie Lévy avant 20h dans votre grand journal du soir.
Et bien dans un instant, un nouveau coup de chapeau ce soir à vous, à cette France solidaire dans ce moment si particulier, à cette France qui se relève les manches, des initiatives originales un peu partout en région avec nos correspondants et puis bien sûr le docteur Jimmy Mohamed qui est fidèle au poste. C'est pas mal aussi comme ça. Il nous rejoindra le docteur évidemment pour répondre à vos questions. D'abord très sérieusement, c'est votre rappel des titres. Isabelle Millet.
Il est 19h30 sur Europe 1.
Et une quinzaine de détenus se trouvent ce soir sur le toit d'un bâtiment de la prison d'Argentan dans l'Orne. Depuis l'annonce avant-hier de la suspension des parloirs pour les familles, les tensions se multiplient dans les prisons françaises. Les organisations professionnelles du déménagement demandent ce soir que soient interdits de toute urgence tous les déménagements qui les mettent en relation directe avec les clients. Les conseils municipaux sortants ne seront pas installés ce week-end comme c'était prévu initialement. Édouard Philippe annonce le report des réunions qui devaient permettre d'élire les maires. Les conseillers municipaux actuels vont donc gérer les affaires courantes jusqu'à la décision du conseil scientifique mi-mai et ça concerne environ 30 000 municipalités. Les Français n'ont visiblement pas bien intégré les consignes de confinement. Emmanuel Macron s'en inquiète. En conséquence, plusieurs villes ou départements resserrent encore les mesures restrictives. Interdit par exemple de se promener sur la plage ou sur les sentiers côtiers. À Bordeaux, les quais de la Garonne resteront fermés. L'Allemagne mobilise des réservistes de l'armée. Ils sont 75 000. Le Royaume-Uni passe lui aussi à la vitesse supérieure et ferme ses écoles. Il rapatrie également une partie de ses troupes d'Irak. Et puis l'Espagne compte désormais 767 morts. L'Espagne qui a vu le nombre de victimes progresser de 30% en 24 heures. À Madrid, un hôtel a été transformé en structure médicalisée afin de traiter les cas les moins graves.
Merci beaucoup Isabelle. On se retrouve demain. Hein. On est loin
demain,
mais si
Nathalie.
Proche pour de nouvelles infos. Merci à vous. 18h, vous serez au rendez-vous. Anissa, vous serez aussi au rendez-vous.
Évidemment.
Toujours pour nous annoncer là de bonnes nouvelles. On en a besoin.
Alors effectivement, il fait beau. C'est un temps assez printanier qui va durer encore plusieurs jours sur l'ensemble de la France. Alors certains malheureusement ne peuvent pas en profiter, notamment tous ceux qui sont en appartement. Pour les autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable en jardin ou en terrasse. Alors si vous ne pouvez pas en profiter, on recommande tout de même de bien aérer, de bien ouvrir vos fenêtres pour faire au moins rentrer cette chaleur printanière et ce soleil. Il faut savoir que demain, ça va se calmer sur le nord-ouest et le nord de la France, de la Bretagne jusqu'aux Hauts-de-France. Ça sera beaucoup plus gris avec même des averses. C'est une petite perturbation qui nous arrive des îles britanniques qui va toucher le nord demain. Mais rien vraiment de très inquiétant. Le beau temps reviendra très vite samedi dans l'après-midi de l'Alsace aux Alpes. Là aussi, nous aurons quelques gouttes et partout ailleurs, c'est du grand et beau soleil. Des températures, nous aurons 2 à 11 degrés demain matin et dans l'après-midi, 9 à 11 sur le nord, 14 à 20 sur la moitié sud.
Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 20h Nathalie Lévy, toutes les belles initiatives qui se font partout en France pendant cette période très étrange du confinement. Et d'ailleurs, vous pouvez venir nous rejoindre au 39-21. Tous les bénéfices de vos appels sont reversés à l'Institut Pasteur. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Eh oui, comme hier soir, en fait, on n'a pas assez de place, si vous voulez, dans cette demi-heure, pour raconter toutes les belles initiatives qui, comme ça, fleurissent un peu partout en France. On a Jimmy Mohamed qui sera avec nous dans un instant, le docteur d'Europe 1. Vous pourrez lui poser toutes vos questions, contactez nos 39-21. Mais d'abord, on prend la direction de l'Est de la France. Bonsoir Arthur Mbaché.
Bonsoir Nathalie.
Quand je pense qu'il y a une semaine de ça, on était ensemble pour parler municipal ensemble, vous vous souvenez ?
Oui, c'est
maintenant,
vrai.
on s'adapte, on se relève.
Le monde a changé.
Eh oui, le monde a changé. Les associations caritatives, elles sont là parce qu'il faut bien évidemment continuer à venir en aide aux plus pauvres.
Ouais, imaginez donc ce qui se passe au Secours Populaire en Moselle. Ils sont passés en mode drive, un peu comme au McDo en fait. Imaginez un bénévole qui gère l'arrivée des bénéficiaires sur le trottoir et les colis qui passent par la fenêtre, posée sur le rebord de la fenêtre précisément, nous dit Marie-Françoise Tull, la présidente départementale du Secours Populaire.
Nous avons aménagé un genre de drive, si on peut dire. C'est-à-dire que les locaux de la Fédération de la Moselle et presque tous les comités finalement sont en général en rez-de-chaussée, donc on s'est servi des fenêtres, donc les personnes ne rentrent plus dans les locaux. ça se passe bien. On n'assiste pas du tout, vous savez, aux bousculades auxquelles on a pu assister dans certains magasins. Pas du tout. Hein. Les gens savent qu'on est là pour eux. Ils ont accepté assez facilement.
Alors, Nathalie, le Secours populaire a demandé à ses bénévoles âgés de rester chez eux, évidemment, et du coup, lance un appel. Ils ont besoin de jeunes, puisqu'il n'y a plus cours, me dit-on. Les jeunes peuvent venir nous donner un coup de main de temps en temps. Besoin de bras, besoin d'argent aussi. En Moselle, la braderie et la chasse aux œufs sont annulées. Ça peut paraître anecdotique, secondaire, mais au cours de ce type d'événement, l'association encaisse en général pas mal de dons.
Eh oui, forcément. Merci Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans l'Est. On va vous retrouver hein, au fil des prochains jours, bien sûr. Merci à vous. On est en ligne également ce soir avec Valérie Sielka. Bonsoir. Valérie Sielka, pour être exact, hein, pardonnez-moi. Vous êtes directrice de l'EHPAD L'Aubade. C'est à Flamanville, exactement.
Dans la Manche.
Voilà. Alors, lundi, vous avez lancé un appel aux enfants pour qu'ils envoient des dessins, des petits mots comme ça, des cartes postales aux résidents via la poste. Quel est le résultat?
Alors, tout d'abord, j'ai lancé un appel sur ma page Facebook et en fait, je ne m'attendais pas à autant de succès, de partage, parce qu'on est arrivé presque à 2800 partages. Et donc là, au final, je reçois tous les jours des courriers, des mails qui sont adressés à nos résidents afin de leur apporter un peu de réconfort et ça marche très très bien. Ils sont super contents.
Oui, c'est vrai, parce que on rappelle évidemment que les seniors, les aînés, nos aînés qui sont en EHPAD ou même en institut, etc., ne peuvent pas être visités et on sait combien l'isolement dans ces cas-là peut être dramatique. Donc il faut continuer à envoyer des dessins, pas que les enfants d'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire, Valérie.
Les enfants, j'ai pas eu que les enfants, j'ai même des adultes, alors dans toute la France, qui m'ont écrit. Donc nous, on fait des petits ateliers l'après-midi avec l'animatrice. On ouvre tous ces courriers. Alors ça arrive par mail ou par courrier, parce que le facteur passe encore. Et donc, c'est un moyen de leur faire garder encore le sourire parce que c'est pas évident de ne pas voir leurs proches, en fait. Hein.
Évidemment. L'isolement terrible, surtout dans ces circonstances. Merci beaucoup, Valérie Sielka. C'est cet EHPAD, L'Aubade, à Flamanville. Et donc, allez-y, écrivez, dessinez. N'hésitez pas, la poste, les courriers, ça circule et ça fait du bien aux personnes qui en ont besoin. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes tout au long de la journée sur l'antenne d'Europe 1, à distance, mais très proche de nous pour répondre aux auditeurs, les rassurer, leur préciser ce qu'il faut continuer de faire ou pas, évidemment les orienter. Merci à vous. On entend parler encore là, ces dernières heures, d'un vaccin, docteur Jimmy Mohamed, toujours là, la chloroquine. Est-ce que ce soir vous en savez plus, vous, là-dessus?
Non, écoutez, il faut qu'on soit très clair avec les auditeurs et avec les Français qui nous écoutent. Ne comptez absolument ni sur le vaccin, ni sur la chloroquine pour endiguer l'épidémie. La seule mesure qu'on peut tous appliquer, parce que l'urgence, elle est là, dans les jours, dans les semaines à venir. Le vaccin, même si c'est prometteur, même si chaque jour on aura de nouvelles annonces et des pistes d'espoir, peut-être que dans quelques mois il sera en place quelques semaines, mais l'urgence, elle est aujourd'hui, elle est demain, elle n'est pas dans plusieurs semaines ni dans plusieurs mois. Donc oublions cette histoire de vaccin sur le très court terme. Les hôpitaux commencent à être à un niveau de saturation assez insupportable, notamment en Île-de-France et dans le Grand Est. Cette situation va se transposer petit à petit dans toute la France. En ce qui concerne la chloroquine, c'est un essai de toute petite qualité et d'un faible échantillon, 24 malades qui ont prouvé qu'ils ont moins d'excrétion virale, sauf que on ne sait absolument pas si ces malades vont faire moins de complications, moins mourir, aller mieux plus rapidement. C'est une étape préliminaire qui certes est peut-être encourageante, mais ne prouve strictement rien. Comptez sur une seule chose, le confinement et le fait de rester à la maison.
Voilà, pas d'emballement. Donc surtout pas, soyons prudents. On continue de vous poser des questions, docteur Jimmy Mohamed. Dans une seconde, on va filer aussi à Nice parce qu'on parle solidarité et on vous montre que un peu partout en France, cette solidarité, elle fonctionne. À tout de suite sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy, et ensemble, avant 20h, on fait le tour de France de ces belles initiatives qui se mettent en place pendant cette période de confinement. Vous pouvez bien sûr réagir à l'émission 3921 et venir nous rejoindre également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte pour poser vos questions au docteur Jimmy Mohamed.
Et oui, on va filer à Nice maintenant, dans le sud-est de la France, où là aussi la solidarité s'organise. Bonsoir Frédéric Michel.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les auditeurs.
Bienvenue. Alors, Frédéric, vous êtes notre correspondant sur la Côte d'Azur. Depuis quelques jours, des habitants du Vieux-Nice sont mobilisés là aussi pour aider les personnes isolées. Hein.
Effectivement, et un peu partout hein, dans les ruelles du Vieux-Nice, des affichettes fleurissent pour informer les personnes isolées qu'un dispositif exceptionnel d'entraide est à leur disposition. L'initiative vient du comité de quartier. Alors, sur les affichettes, vous trouverez un numéro de téléphone pour rejoindre ces bénévoles. L'idée, livrer gratuitement à domicile des achats de première nécessité, hein, de la farine, du sucre, du pain, des petites commandes hein, de 10 à 20 euros, gantés et masqués. Des jeunes gens se proposent de faire les courses. Les bénévoles prennent les commandes le matin. Il suffit de leur laisser une liste et l'argent nécessaire. Puis ils se rendent dans des supérettes proches et ils vous ramènent votre panier en gardant une distance hein, de sécurité. Mais cela rompt aussi la solitude des personnes qui n'ont pas autour d'eux des proches dans ce moment particulièrement difficile. Il est angoissant.
Et, oui. Et il n'y a pas que dans les grandes villes hein, que les initiatives se multiplient, heureusement.
Oui, hein, dans un village de l'arrière-pays niçois, à Conségude, c'est le maire qui fait office de livreur dans cette petite commune. Il n'y a aucun magasin. Alors pour ceux qui ne sont pas motorisés, monsieur le maire propose de récupérer les courses, préalablement commandées sur Internet, hein, dans le supermarché le plus proche. Et vous le voyez, partout, partout, la solidarité s'organise. Et ces petits gestes font chaud au cœur des bénéficiaires et de ceux qui se mobilisent et aider les autres. Hein, ça apporte aussi beaucoup de satisfaction.
Eh oui, le maire qui se remonte les manches, c'est bien ça, il faut donner l'exemple. Merci beaucoup. On va se retrouver certainement dans les prochains jours, Frédéric Michel, merci à vous. On va prendre la direction de la Gironde maintenant, Bordeaux précisément. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Et oui, là aussi, c'est la mairie qui a mis en place une plateforme d'entraide. Comment ça ?
Bon, c'est assez simple. En fait, via le site internet de la ville, on se connecte sur cette plateforme qui s'appelle tout simplement jeparticipe.bordeaux.fr. Et l'objectif, eh bien, il est très simple. Ça consiste finalement à rassembler les bonnes volontés. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 bénévoles qui sont inscrits, 1000 volontaires qui sont passés par cette plateforme pour donner un coup de main, vous savez, pour faire des courses, pour passer des coups de fil à des personnes âgées isolées. Je vous propose d'écouter l'adjointe au maire en charge de ces questions de solidarité, Alexandra Siari.
C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire savoir que vous êtes prêt à être volontaire. Vous vous inscrivez en disant « moi je veux bien donner du temps ». Donc il y a déjà 600 Bordelais qui ont fait savoir qu'ils aimeraient être bénévoles et volontaires. Et autre chose très importante à faire sur cette plateforme, c'est que vous pouvez aussi indiquer que vous avez des besoins pour vous-même ou pour des gens qui sont proches dont vous vous dites que peut-être ils seraient isolés. Concrètement, pour les besoins qui ont été signaler, ça peut être l'aide aux courses, des appels téléphoniques pour se sentir un peu moins seul. Ça peut être aller récupérer des médicaments.
Et puis ça peut être aussi une garde d'enfants. Et vous voyez, ça va très vite parce qu'entre le moment où on a fait cette interview avec Alexandra Siari et là ce soir, eh bien, le nombre de bénévoles a quasiment doublé. Puis en complément, la ville propose aux Bordelais une affichette destinée à favoriser les contacts indispensables, utiles entre les voisins. Alors pour les habitants de résidences, d'immeubles collectifs ou même de maisons individuelles, chacun peut apposer cette affichette sur des lieux de passage habituels, justement pour susciter l'entraide, le lien social. On sent en tout cas qu'il se passe quelque chose. Moi, dans mon propre quartier, des voisins avec qui c'était bonjour, bonsoir, ben, ils viennent d'instaurer un groupe WhatsApp en récupérant le numéro de téléphone des uns et des autres. Voilà.
Ouais, exactement, voilà, ça se démultiplie et c'est tant mieux. Merci beaucoup. Stéphane Place, depuis Bordeaux, on salue la Gironde, on salue toutes les régions évidemment et toutes ces initiatives solidaires un peu partout maintenant en France. Dites-moi, docteur Jimmy Mohamed, bien entendu, chez les sans-abri, c'est un véritable sujet à l'heure qu'il est. Et les migrants aussi, parce que typiquement, pour prendre l'exemple de la région parisienne, quelques 500 migrants concentrés dans un bidonville de la banlieue parisienne aujourd'hui. Comment font-ils avec ce virus? Comment font ces gens?
Deux problématiques. La première, c'est effectivement celle de l'aide. Désormais, plus personne n'est dans les rues, plus personne ne va leur donner une petite pièce ou finalement de quoi subvenir à leurs besoins. Donc il y a un risque sur le court terme, un, qu'il n'ait plus de quoi vivre. Et puis deux, les migrants, malgré tout, ou les personnes qui seraient regroupées, sont des clusters et des cas potentiels où la maladie pourrait se disséminer et faire flamber d'autres épidémies. Donc il y a une double problématique, à la fois de santé publique, de protéger la population, et puis aussi à titre individuel, que ces gens-là, les oubliés de la société, puissent être pris en charge. Et on a très peu aussi parlé des prisons. Imaginez une épidémie dans une des prisons, je n'ose imaginer les conséquences. Donc c'est un peu malheureusement ceux qui ont été mis de côté à ce stade de l'épidémie.
On va y revenir évidemment parce qu'on voit ces initiatives. Typiquement une autre initiative là ce soir à 7 avec vous, Charles Osborne. Bonsoir. Vous êtes gérant de la conciergerie à 7 sur 7, 80% du parc locatif privé est vide. Vous avez lancé un appel en fait auprès des propriétaires. Pour quoi faire ?
Alors, en fait, on a lancé un appel à tous les propriétaires pour qu'ils mettent à disposition leurs logements qui sont vacants actuellement pour le personnel médical. Parce qu'on a découvert que beaucoup de personnes ne souhaitaient pas rentrer chez eux par peur de mettre en danger leur famille. Donc, ils projetaient de dormir dans les couloirs des hôpitaux. Donc, pour éviter ça, moi, en tant que gérant d'une conciergerie, j'ai beaucoup de logements vacants et je voulais leur venir en aide. Et donc, on a fait une solidarité nationale pour faire un appel à toutes les conciergeries, à tous les propriétaires qui ont des logements vacants actuellement, pour les mettre à disposition gratuitement du personnel médical.
Et les réponses ? Qu'est-ce qu'il en est ?
Écoutez, on a énormément de réponses, on a beaucoup de logements actuellement. C'est tout le monde veut faire
preuve de solidarité. Donc les propriétaires répondent présents.
Exactement, voilà. Donc c'est vraiment génial. Toute la France, quasiment, on a toutes les grandes villes de France qui ont répondu présentes. Et on continue là avec la mise en ligne d'un site internet pour mettre en relation directement les propriétaires et le personnel soignant qui souhaiterait bénéficier de ces offres.
Voilà, un toit pour ces soignants, c'est bien le minimum qu'on leur doit. Bravo pour cette initiative, la conciergerie de Castel, Charles Osborne. Merci beaucoup, vous l'avez entendu, un peu partout ces initiatives en France. Ça continue, faites-nous part de ce que vous avez vu, entendu au 3921 ou sur le hashtag Twitter Radio Ouverte, parce que typiquement, vous voyez, ça paraît si simple, mais évidemment, leur éviter à ces soignants de dormir dans les couloirs, de dormir à même le sol, évidemment, c'est bien le minimum que nous puissions faire dans cette crise inédite. On se retrouve, nous, dans un instant, sur Europe 1. Soyez au rendez-vous. Et puis, on va ouvrir les fenêtres parce qu'on veut entendre les applaudissements nourris ce soir encore pour leur rendre hommage à ces soignants qui sont indispensables.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy, et avec tous ces Français qui lancent de belles initiatives pendant cette période de confinement. Nous découvrons ces initiatives grâce à vous sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte ou au 3921 dont tous les bénéfices des appels sont reversés à l'Institut Pasteur.
Oui, et vous savez, pour les auditeurs là qui sont avec nous, on était il y a un instant avec le gérant de la conciergerie à 7, Charles Osborne, qui propose donc de mettre à disposition gratuitement des appartements au service des soignants de 7 et alentours, parce que les propriétaires là se mobilisent, et ça se passe sur Facebook. Des logements pour les soignants, si vous en avez, rendez-vous sur Facebook et allez-y, répondez présent. Et le site Solidarité Logement également. On est également avec vous en ligne, docteur Didier Henry. Bonsoir, ex-chef du service gynécologique au CHU de Remiremont, c'est dans les Vosges. Bonsoir docteur.
Bonsoir, vous êtes, Nathalie, bonsoir à tous.
Bonsoir. Vous êtes à la retraite depuis 5 ans et vous avez décidé d'y retourner, d'enfiler de nouveau la blouse au CHU bénévolement, c'est ça ? Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre mission ?
Alors ma mission, elle consiste à être au niveau du poste de médecine avancée. C'est-à-dire que c'est un poste qui se trouve à l'entrée des urgences et qui fait le tri finalement entre les patients qui sont susceptibles, qui viennent aux urgences et qui sont susceptibles d'être porteurs du coronavirus et les autres. C'est-à-dire que bien sûr, en cette période d'épidémie, il faut que les urgences continuent. Donc il y a des cas où il y a encore plus trop maintenant puisque tout le monde est confiné, mais il y avait des arrêts de travail jusqu'à maintenant, il y avait des accidents et tout ça. Donc il faut quand même à l'entrée voir si les hospitalisés sont, enfin ceux qui viennent pour se faire hospitaliser, sont porteurs de la maladie ou pas. Donc on fait le tri. Et puis donc on prend la température, on fait l'examen clinique, on leur fait un interrogatoire. Et ensuite donc on décide de les faire passer soit dans la filière normale, c'est-à-dire non infectée, ou dans la filière Covid-19.
Eh oui.
Voilà comment ça se passe.
Dites-moi docteur, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer fondamentalement comme message ce soir, là sur l'antenne d'Europe 1 ? Vous vous dites trois mots je crois, très clair, très limpide, pas besoin de traduire.
Simplement, moi, je dirais que, comme moi, s'il y a des médecins qui se sentent concernés, qui prennent contact avec l'hôpital de leur ville, pour justement savoir s'ils n'ont pas besoin de médecins pour éventuellement faire comme moi, c'est-à-dire se mettre en poste au poste de médical avancé pour faire le tri des gens qui sont susceptibles d'être infectés par le coronavirus. Et puis je dirais aussi que ce poste-là, c'est à ce poste-là aussi qu'on voit tous les soignants qui présentent quelques symptômes grippaux, un peu, qui toussent un peu et qui sont inquiets. Donc nous, on les voit. Et bien sûr, on les met en arrêt de travail s'il y a besoin. Mais je pense qu'il faut aussi rassurer les soignants parce qu'ils sont quand même en première ligne.
Bah, bien sûr, ils sont en première ligne. Et vous vous dites, faites comme moi, allez-y bénévolement. C'est votre propos, docteur Didier Henry. Merci beaucoup depuis les Vosges ce soir. Oui. Merci à vous et merci de cette initiative. Docteur Jimmy Mohamed, dites-moi... Oui. Est-ce que vous êtes surpris quand vous entendez tout ça au fond, la solidarité comme ça? Là, ça fait 3 jours à peine ce confinement et on voit toutes ces initiatives.
Oui, je pense que plus rien ne sert jamais comme avant. On a connu beaucoup de problèmes en France, on a connu le terrorisme, mais là j'ai l'impression qu'on connaît quelque chose d'assez incroyable, la plus grande crise sanitaire que personne n'ait jamais connue, peut-être la plus grande crise sanitaire que nous ne connaîtrons jamais. Et je pense que plus rien ne sera jamais comme avant. Je pense que les gens vont prendre conscience peut-être de l'importance de la vie, de certains gestes, du rôle des soignants. Peut-être que le gouvernement, qui a été un peu sourd jusqu'à présent aux revendications de l'hôpital, et l'hôpital qui flambait déjà depuis des semaines et des mois, bah, la conséquence, on la vit aujourd'hui. Mais je pense que plus rien ne sera jamais comme avant. Et j'espère qu'on sortira grandi de cet épisode, qu'on oubliera pas trop vite, parce qu'on a tendance à faire ça, et qu'on se souviendra que les soignants du quotidien auront peut-être sauvé le pays, notamment ces infirmières qui, on va pas se mentir, pour un salaire dérisoire, prennent des risques tous les jours, les brancardiers, les aides-soignants, les médecins aussi, et puis là, des initiatives des citoyens lambda. Donc je pense qu'on peut être fiers, mais ce n'est que le début. On est qu'au début, on est au 3e jour, on a l'impression que ça fait des mois et des mois. Ce n'est que le début d'un long combat. Préparons-nous pour des semaines et des semaines qui vont être dures, mais on sortira grandi. Je pense que la France sera grandi de cette victoire.
Ça fait énormément de bien de vous entendre chaque soir, nous livrer comme ça toutes ces initiatives, toutes ces idées que vous avez et toutes ces mains tendues. On a des questions aussi pour vous, docteur Jimmy Mohamed, de Nicolas, typiquement. Bonsoir Nicolas, vous nous appelez de Sainte. Bonsoir à vous.
Ouais, bonsoir docteur, bonsoir de cher opératif, effectivement. Je vous appelais d'un point de vue médical, donc justement pour embêter des hôpitaux et compagnie. J'ai des maux de tête, j'irais en continu depuis 48 heures, mais quasiment. J'ai pris 3 efferalgans hier, pas habitué à ça. Est-ce que je dois ou pas m'inquiéter? J'ai pas l'impression d'être fiévreux, j'ai pas de tremblement, j'ai pas. Est-ce que c'est des migraines? Est-ce que...
Alors attention, parce que c'est vrai que en ce moment on rapporte tout symptôme au coronavirus, et c'est vrai que les maux de tête en font partie, mais pris de façon isolée, ce n'est pas un critère de coronavirus. Vous me dites que vous pensez ne pas avoir de fièvre, mais il faut déjà vérifier, parce que parfois on se rend pas compte, on n'a pas l'impression d'être chaud, et vous avez peut-être 38, et ça renforcerait le diagnostic de coronavirus. Vous avez le droit d'avoir de la migraine, d'avoir, avec ce contexte un peu anxiogène, une tension qui serait un peu élevée, et donc je considère qu'à partir du moment que ça fait 48 heures que vous avez des symptômes, que s'ils persistent et que le Doliprane ne passe pas, vous êtes un candidat idéal pour être examiné par votre médecin traitant, un coup de fil à lui passer pour éviter d'être dans la filière des contaminés, parce que les médecins traitants se sont organisés, ils prennent par exemple des malades chroniques le matin, de la téléconsultation l'après-midi, et puis le soir des créneaux d'urgence pour des malades qui veulent absolument voir. Donc je pense que vous devez consulter, car les maux de tête de façon isolée peuvent révéler d'autres pathologies. Il n'y a pas que le coronavirus en ce moment, on en parle énormément, mais il y a toute la bobologie du quotidien qu'il faut quand même ne pas négliger.
D'accord, j'ai pris que deux comprimés depuis hier matin. Est-ce que je dois en reprendre demain matin avant ou pas, d'après vous?
Vous avez le droit de prendre du paracétamol à la dose de 3 grammes par jour. En revanche, si ça persiste, consultez. Ne prenez pas d'autres médicaments dans le doute, ou passez un coup de fil à votre médecin demain matin.
Non, ce sera Feralgon.
Oui. Bon, ça marche aussi.
Vous nous tenez au courant, Nicolas, évidemment, et les conseils du docteur Jimmy Mohamed, c'est tout au long de la journée sur Europe 1. Dites-moi, docteur, une petite question, là, on est à l'approche du week-end, pas très loin, on en reparlera d'ailleurs demain. La tension peut commencer à monter dans les appartements, dans les domiciles. Comment on fait là pour souffler ?
C'est vrai que c'est compliqué, c'est la crainte, notamment lorsqu'on a des enfants ou lorsqu'on est dans un... Ou parfois quand on est seul aussi, la solitude peut être difficile. Je pense qu'il faut s'accorder des moments, de moments de break où justement on s'accepte lorsqu'on est à la maison de ne pas être avec les enfants, de faire autre chose ou peut-être même de marcher simplement. On recommande aux gens d'éviter de faire de grands marathons de 40 km, mais rien que de s'aérer l'esprit en bas de la maison, en évitant des contacts, je pense que ça peut être une façon de remettre les compteurs à zéro. Peut-être c'est un moment aussi de faire un peu de méditation, de yoga, ça a prouvé leur efficacité, notamment chez les patientes qui ont des cancers du sein, et on s'est rendu compte qu'elles ont un meilleur pronostic et qu'elles ont moins d'effets secondaires des traitements. Donc toutes les, on va dire, médecines alternatives comme le yoga, la méditation peuvent vous aider, mais c'est vrai que c'est des moments difficiles, et encore une fois, nous ne sommes qu'au début, qu'au troisième jour du confinement.
Oui, c'est ça. Et demain, vous nous en donnerez plus des conseils, ou en tout cas, on sera en ligne avec un certain nombre à la fois de spécialistes, livres, cinoches, etc. Alors pas cinéma, mais désormais VOD pour entendre ces conseils. Et attendez, je sais pas si j'ai réussi à faire les choses correctement, mais je vous dis toute la vérité, rien que la vérité, je suis sur mon balcon. Est-ce que vous entendez?
Ah oui.
Voilà. Écoutez, tendez l'oreille. C'est magnifique. Ouais, plus fort encore, un peu partout en France, regardez. Regardez, ils sont là, ils répondent présents, les Français. Elle est incroyable cette image. Ah oui. Voilà, c'est incroyable. On est en direct là sur Europe 1 et je peux vous dire que j'ai les larmes aux yeux. On partage des moments comme ça aussi dans des circonstances telles. On pensait pas vivre ça tous ensemble un jour, mais là on est vraiment tous ensemble à distance, mais tous ensemble et tous ensemble pour les soignants. Je vous enverrai ensuite la vidéo, on va la poster sur le Twitter de l'émission et vous allez voir que la mobilisation elle est là, à bonne distance toujours et encore. On vous remercie pour votre fidélité. Merci docteur Jimmy Mohamed d'être avec nous tous les jours sur l'antenne. C'est également le cas dans le 12-14 avec Raphaël Duchemin, cette France solidaire et cette France des initiatives et cette France là qui se mobilise là encore. On sera là demain soir 18h-20h pour votre grand journal du soir avec ses applaudissements, avec ses encouragements et avec ses bons gestes. Barrières, protégez-vous. Nous on est là pour vous informer avec le sourire et on vous souhaite une très belle soirée.